Bonjour à tous et bienvenue dans CM au sommet, l'émission qui fait parler les community managers. Je suis Julien et j'accueille aujourd'hui Clémence Aulas, qui est community manager chez Jo. Donc c'est une marque de protection hygiénique par abonnement sur internet, c'est une start-up. Hein. Et aujourd'hui on va parler d'une question qui me travaille depuis longtemps. Est-ce qu'un CM peut faire évoluer des questions de société? Et j'ai voulu y répondre en invitant Clémence dans le podcast. Je suis super content qu'elle ait accepté et du coup on va parler pendant plus d'une heure et demie sur leur stratégie social media, leur stratégie de contenu, toute la création de contenu sur Instagram, TikTok, Facebook, les autres réseaux et puis aussi bien sûr les techniques d'organisation de travail et d'organisation avec les équipes en interne hein, de Clémence. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne écoute, mais juste avant de commencer, j'aimerais vous parler d'un projet que je suis en train de réaliser en ce moment. Je suis en train de créer ma formation pour aider les personnes qui ont envie de devenir community manager, d'en vivre pleinement. Donc c'est une formation qui permet aux personnes qui ont envie de se former vraiment aux techniques des community managers de A à Z hein, et d'avoir une approche aussi bien stratégique qu'opérationnelle, de pouvoir se former et ensuite avoir un suivi vraiment collectif hein, au niveau de la formation. Donc c'est une formation qui est en ligne et vous pouvez donc en apprendre plus en cliquant sur le lien qui est en description. Voilà, merci à tous et puis à tout de suite. Salut Clémence.
Hello, bonjour.
Bah écoute, je suis hyper content que tu viennes dans le podcast aujourd'hui. Parce que en fait c'était Axel Marot qui m'avait parlé de Jo il y a quelques temps, elle était passée dans le podcast et elle m'avait dit que c'était une start-up à suivre et tout, et elle aimait beaucoup cette marque. Du coup je m'étais dit bon bah voilà, je vais aller voir du côté de Jo, hein, on dit Jo,
c'est exactement, on dit Jo, ouais, c'est ça.
C'est c'est pas une abréviation, mais c'est, ça veut dire juste et honnête,
c'est ça. Exactement, c'est la contraction de ces deux mots là, exactement, ouais.
Est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce que c'est alors de quoi ça parle?
Exactement, le cœur d'activité de Jo. Donc c'est une entreprise qui propose, donc sous format de start-up, qui propose des protections périodiques, biologiques, donc avec des produits conçus en coton 100% bio, certifié GOTS, la société est certifiée GOTS.
Ça veut dire quoi?
GOTS, c'est un label de certification qui va justement bien encadrer la façon dont sont produits l'ensemble des références qu'on a, tant dans les conditions que dans les... Ah merde,
fabrication.
La fabrication, oui. Ouais. La fabrication des produits, pardon. Donc, c'est un des labels les plus exigeants qui existent.
Ok.
Voilà. Ah. Très intéressante ça, au niveau conception des produits. Et on a aussi un engagement, de par le nom juste et honnête, envers 5 causes que vous pourrez retrouver sur le site, pour justement reverser 1,7% de notre CA depuis le début, depuis 2018, à des causes voilà, qui nous sont chères pour lutter contre la précarité et la très grande précarité, au-delà de la précarité menstruelle, de certaines femmes qui vivent en France et à l'étranger.
Ok, d'accord. Et du coup, toi, t'es CM, c'est ça, community manager dans
slash
cette startup.
Content manager. Je fais pas que du pur CM. Je fais aussi de la production, on va dire visuelle, en chapeautant des shootings et des tournages aussi. Ouais.
Ok. Du coup, comment t'es arrivé dans cette boîte? Qu'est-ce que tu faisais avant?
Avant, j'étais CM puis social media manager en agence pendant quasiment 10 ans. J'ai commencé assez jeune en alternance à Angers. Je suis originaire d'Angers.
D'accord.
Dans une première agence qui m'a fait confiance et avec laquelle j'ai continué en CDI. Et puis, j'ai eu envie de voir des marques un petit peu plus grosses que celles pour lesquelles je travaillais. Donc, je suis allée dans une agence nantaise dans laquelle j'ai pu découvrir des fonctionnements avec des marques nationales et internationales. C'était hyper enrichissant. Et puis, mes premiers amours, c'est quand même la conception rédaction. J'ai eu envie d'explorer plus ça avec tout ce qui va être, on va dire, réalisation de storyboard, etc., du naming aussi. Donc, j'ai pu m'éclater sur ce sujet-là, tout en faisant du social media management avec l'agence du Parc, et ma dernière expérience en agence.
D'accord.
Et puis, je pense que l'air covidien a eu raison de moi sur un pré-bilan de la trentaine pour me dire qu'est-ce que j'ai envie de faire, vers quoi j'ai envie de me tourner, quelles valeurs j'ai envie de défendre aussi au quotidien. Et aussi envie de on va dire, nouvelle organisation après ces quasi 10 années en agence. Et Jo était dans mon viseur depuis quasiment déjà 2 ans. Je trouvais qu'elle cartonnait niveau communication,
ouais.
Que le produit était pile dans ce pourquoi j'avais envie de m'investir au quotidien. Donc, j'ai postulé très rapidement une offre d'emploi qui est tombée pile au bon moment. Enfin, il y a eu un espèce okay. d'alignement des planètes fin 2020 pour moi. Et,
ouais.
Et j'ai rejoint les effectifs le 8 mars. Assez symbolique comme date.
D'accord. Voilà.
Ouais.
Ok. Ouais, alors, 8 mars. Ah, purée, mais là, je suis nulle à chier. Hein. C'est un truc avec la journée de la femme, non ? Des droits de la femme. Des droits de la femme.
Exactement.
Et, là, c'était juste. Hein.
Mais c'est exactement ça. C'est la journée internationale des droits de la femme. Voilà.
D'accord. Ok. Du coup, qu'est-ce que ça. Tu vois, tu me dis que tu as bossé 10 ans en agence. C'est quand même énorme, cette expérience. Qu'est-ce que ça apporte de travailler en agence, en SEM ou social media manager d'ailleurs ? Et c'est quoi la différence vraiment entre CM et social media manager en agence ?
Alors, en agence, ça va être plus. Alors, il y avait deux questions.
Ouais.
Il y avait la première question, donc qu'est-ce qui est le plus important ? Je dirais que c'est une certaine forme de rigueur et d'empathie envers les clients et une rigueur pour s'organiser parce qu'on est multicompte. Donc, il faut avoir un temps découpé et pas surbouffé par des projets qui pourraient être un peu chronophages. Et aussi savoir faire la distinction entre ce qui est notre pure mission et ce qui ne va pas l'être puisqu'on a tout un champ de métiers à disposition dans une agence, ce qui n'est pas forcément le cas dans un modèle de start-up où, au contraire, on va pouvoir tenter plusieurs choses qui ne sont pas, dans notre fonction première et c'est très enrichissant. Donc, en agence, on s'appuie sur les compétences d'autres collaborateurs avec qui on va pouvoir proposer des choses à notre clientèle. Et la différence entre CM et social media manager, attention, parce que tout le monde a sa petite définition perso, mais pour moi, social media manager, il est beaucoup plus en vision, en hauteur, et il va avoir un rôle d'encadrement aussi potentiellement d'une team. C'est aussi pour ça qu'on le sollicite. Moi, je travaille en binôme avec une alternante et une salariée en CDI. Et c'était hyper enrichissant d'avoir cette vision un petit peu en retrait de la prod, tout en ayant un pied dedans quand il fallait. Écoute, on était dans le jus et c'était hyper important. Et aussi, dans les congés des autres, ça va sans se dire. Mais c'était pour moi un bon rôle de transmettre aussi, mine de rien, ce qui est le propre du métier en agence, pas comme quand on est social media manager en freelance. On peut avoir un stagiaire, mais c'est différent. Et là, j'avais un rôle de transmission qui m'a beaucoup apporté et que j'ai aimé faire pendant ces 2 dernières années, là, je ne sais pas, où j'étais vraiment dans cette posture, social media management. Et force de recommandation au fil de l'eau avec les clients. Quoi. Ouais.
D'accord, donc ça veut dire que c'est marrant cet aspect de transmission, en fait, je n'ai jamais entendu. Oui, forcément, si tu encadres, tu transmets aussi.
Bien sûr, et c'est hyper fort. Et il faut prendre le temps. Et j'ai une petite mission, une petite formation tuteur qui a été hyper bénéfique pour moi parce que c'est quelque chose quand tu passes de CM à tout faire toi-même, ta prod, machin, etc. À je prends un peu du retrait et c'est OK si des fois les choses, elles sont pas faites comme moi je l'avais imaginé et on prend du recul, quoi. Et de déléguer, et c'est hyper enrichissant quand on voit quelqu'un qui s'éclate au quotidien et qui prend des initiatives. Enfin, moi, j'ai adoré, quoi. Et j'étais entourée de bonnes personnes.
Clair. J'avais
des collègues hyper cool et c'était très, très gratifiant, quoi.
Ça, c'est top. Et t'es niveau méthodo de travail aussi, je veux dire, t'apprends avec les autres à faire une stratégie, tout ça. Enfin, tout ça, ça vient pas de toi, quoi. C'est les méthodes de l'agence, ouais.
Tu t'enrichis avec ton directeur conseil, avec un planeur strat. Enfin, il y a plein de corps de métier qui vont enrichir toute une stratégie. Et ça, c'est vraiment avec des process aussi différents et qui vont bien s'assembler. Ça va faire un joli puzzle, en fait, c'est ça. L'agence, ouais, en vrai, attention, moment politique, l'agence, c'est un puzzle. C'est vraiment ça. C'est une espèce de punchline horrible, mais.
C'est
vraiment ça.
Ouais, mais en même temps, c'est ce qu'on t'apprend en agence, à faire des punchlines et à être plus cash. Hein.
C'est
voilà,
c'est
donc c'est bien. Ok, donc t'as emporté dans tes valises chez Jo, donc ton bac, tout ton expérience en agence.
Exactement.
Du coup, les différents produits proposés par Jo, c'est quoi en fait?
Alors, il y a toute une gamme d'usages uniques, donc tampons, serviettes, protège-slip, etc. Et une gamme réutilisable, telle que la cape et la culotte menstruelle. C'est important. On est dans une ère où il y a beaucoup de re-questionnements sur tout ce qui va être zéro déchet, réduction de tout ce qu'on peut consommer, etc. Et on le voit vraiment, nous, au niveau des consos et puis de tous les concurrents, là, les marques qui sont hyper légitimes comme les marques de dropshipping immondes qui font des prix différents de toute concurrence, mais parce que c'est très mal produit. Ça ouais. M'énerve, par exemple. Oui. Et on en voit en fait beaucoup. Et pour le conso, c'est vraiment très difficile parce que ils vont être sollicités par des biens qui vont être les mêmes que les nôtres. Et il y a une vraie distinction à faire entre une marque qui fait ça clean, avec des bons produits et dans les règles de l'art, et des marques qui sont hyper opportunistes. Mais c'est vraiment parce que en fait, on est dans une ère où on se pose des questions sur tout l'environnement, etc. Et bien sûr pour soi, c'est comme le bio il y a 10 ans, quoi. Donc il faut vraiment savoir faire la distinction pour le conso entre qu'est-ce qui est bien fait et qu'est-ce qui tente de montrer que c'est bien fait mais qui ne l'est pas du tout, quoi.
Ouais, il y a ça d'un côté, et c'est comment ça se positionne par rapport au supermarché, tu vois, aux produits de supermarché?
Alors, en GMS, donc grande moyenne surface, ce que nous on va appeler aussi le retail, donc les points de vente physiques, nous on a vocation à y être, c'est aussi une demande de toute notre communauté, de toute notre cliente, mais notre modèle éco, c'est quand même l'abonnement. L'abonnement, c'est assez révolutionnaire parce que il y a quand même, en tant qu'utilisatrice, en tant que personne menstruée, je le vis au quotidien. Ça reste une charge mentale de penser ah merde, j'ai plus de protège-slip, j'ai plus de tampons, je suis en rade et on est dimanche soir et c'est la panique dans le placard, il y a plus rien, comment je fais? Enfin voilà. Donc ça, c'est une vraie problématique. De personnes qui ont ces règles. Et en fait, l'abonnement, c'est révolutionnaire parce qu'on les reçoit tous les mois, 2 mois, 3 mois, à la récurrence et à définir après par les utilisateurs. Mais on ne pense plus à ça, quoi. Donc, il y a quand même, notre modèle éco, c'est l'abonnement. On peut aussi acheter ce qu'on appelle en one shot, donc en une seule fois. Et on a vocation à s'implanter comme d'autres, acteurs, start-up, etc., en point de vente. Bien sûr physique, pour aussi être au plus près des consos et faire un peu changer la donne, parce qu'il y a vraiment une place à prendre, puisqu'il y a plein de marques qui font du greenwashing et ils seraient bêtes de ne pas le faire, de le tenter, hein. Mais il y a des produits qui ne sont pas conçus en 100% coton et qui jouent sur le côté avec les petits packaging qui va bien, et en fait c'est que le voile, donc forcément pour le conso c'est moins cher, mais parce que c'est pas full coton, quoi.
Donc là tu pars avec deux points assez innovants, on va dire, dans ton rôle de CM. Tu as la partie de l'abonnement où c'est assez nouveau, où c'est des produits qui n'étaient pas vendus, qui n'ont jamais été vraiment vendus en abonnement auparavant, quoi.
Carrément, ouais.
Plutôt en one shot. Et l'autre innovation aussi, c'est vraiment faire un produit fabriqué différemment de ce qui existe actuellement. Sur des pratiques plus respectueuses, peut-être de l'environnement, mais aussi du corps humain.
Exactement, c'est ça, c'est vraiment les deux. Et puis aussi de faire un acte responsable, puisqu'on reverse, en tant que jeune entreprise, 1,7% du CA, et c'est vraiment pas rien. Enfin, on est à plus de 80 000 euros, là, sur les 3 ans qu'on a pu reverser. Oui. Donc
c'est
hyper stimulant, quoi.
D'accord. Donc ça, ces trois choses-là, c'est super important, parce qu'on va en parler beaucoup par la suite. Du coup, à qui ça s'adresse, ces produits? Est-ce que vous vous adressez à toutes les catégories, enfin toutes les tranches d'âge? Comment ça se passe, ce côté-là?
Bien sûr, on accompagne la vie de la personne menstruée de ses premières règles, donc on va dire, faut pas faire de généralité, mais la moyenne, c'est à peu près 12-13 ans, jusqu'à ménopause, puisqu'on a aussi une gamme qui va s'agrandir avec... en premier référencement des produits plus vétérinaires qui n'arrivent pas qu'à la ménopause, etc. Mais voilà, on peut accompagner vraiment la personne menstruée à travers tous ces chemins de vie et toutes ces étapes de vie, quoi.
Du coup, la ménopause, c'est on a discuté l'autre jour.
Oui.
J'ose pas dire ce que j'ai dit l'autre jour. Donc du coup, je dis oui, c'est 56 ans. C'est la bonne réponse.
Ouais, c'est à peu près ça. C'est ça, exactement. Ouais. Ça dépend vraiment. Il y a des personnes qui peuvent aussi être préménopausées, mais environ 45 pour la préménopause, jusqu'à un petit 55, 57, quoi.
D'accord, ok. Du coup, alors ça fait quand même un gap, enfin c'est quand même une grosse différence entre 12 et 50, tu vois. Enfin, comment est-ce qu'il y a, il y a un découpage à l'intérieur ou comment ça se passe en fait?
Bah, en fait, il faut au niveau, tu veux dire au niveau communication, façon de s'exprimer.
Oui, enfin là, oui au niveau, oui carrément. Parce que c'est, oui, enfin on sait que
c'est entre 12. En effet, ouais. On va pas s'adresser du tout de la même façon à la petite petite bichette qui va les avoir et qui sait pas trop comment ça va se passer, quand fait tout un tabou avec ses copines parce que c'est la seule à pas les avoir, voilà. Histoire vécue avec ma nièce, on est en plein dedans. Et typiquement, voilà, une femme qui a eu 4 enfants. Qui prend plus la pilule machin parce que voilà on a plus l'envie enfin et qui a 50 ans donc en fait c'est une vraie volonté de parler à tout le monde mais sans être tarte à la crème et ou autrement partir dans des travers où on se reconnaîtrait pas parce que c'est pas l'ADN des filles et quand je dis les filles c'est Colline et Dorothée les deux fondatrices.
D'accord.
Voilà. En fait Il y a peut-être quelque chose qui va être intéressant de préciser, c'est que dans la façon dont on va s'exprimer, moi je vais rédiger les posts ou bien la Josette qui est la petite revue dans laquelle on exprime tout ce qu'on a à dire, les petites actus dans les colis, c'est un petit flyer qu'on glisse dans les colis.
D'accord.
Moi, on est la copine de la copine. C'est-à-dire qu'on va avoir une proximité, mais aussi un grand respect, une pudeur sur certains sujets, puisqu'on n'est pas les BFF, quoi. On n'est pas les meilleurs amis de la cliente. Et on va tous dire, on va se faire des petits cœurs de partout. Enfin, voilà, on n'est pas non plus dans cette surproximité. Donc, en étant la copine de la copine, on va avoir quand même cette facilité à parler de sujets qui sont vraiment très intimes, souvent en message privé, bien sûr, moins qu'en commentaire, et aussi à aider, à solutionner, etc., et à résoudre des petits soucis de temps en temps, tout en ayant voilà, la prise de recul suffisante en disant « nous, on est une marque, on peut vous aider à choisir des produits, mais n'hésitez pas à aller voir des professionnels de santé, que ce soit sages-femmes, on fait un travail de fond avec des sages-femmes depuis quelques mois, des kinés, des naturopathes qui vont pouvoir vous aider, vous dites bien sûr les médecins, j'ai les gynécologues, ça va sans dire, mais voilà, il y a des professionnels qui font ça de manière excellente et qui vont pouvoir vous guider. Nous, on reste une marque et c'est important de le rappeler ça.
D'accord, donc ça c'est, ok, ça c'est le, on va dire, c'est le, c'est le message, enfin c'est ce que vous voulez transmettre quoi, comme la copine de la copine, c'est votre positionnement vraiment sur les réseaux quoi.
C'est ça, voilà, et la façon dont on va s'exprimer, et aussi ça fait découler toute la ligne édito, donc on va avoir, vous irez voir bien sûr après le podcast, mais tous des contenus voilà de moments qu'on va potentiellement dans la société appeler des moments gênants, que nous on a appelé moments normaux. Ouais. Pour justement dire, c'est OK en fait. Il y a plein de trucs qui sont OK, ça nous arrive à toutes. L'autre fois, voilà, j'ai parlé pets vaginaux, le fait d'être ballonné quand on vient de manger, on nous dit est-ce que t'es enceinte. Enfin, voilà, c'est moi ce que j'appelle des contenus contenus de connivence. Ouais, mais c'est marrant, mais c'est la réalité en fait. Tu vois,
on en parlait tout à l'heure. Oui, non, mais c'est sûr. Après, moi, ce qui m'a fait marrer, c'est la vidéo avec le mec qui descend dans la boue, là, dans les guides Instagram. On en parlera tout à l'heure.
Ah oui, exact.
Si,
oui,
c'est un mec avec une fois dans sa vie, c'est règle par rapport à nous, ça m'a fait trop rire. Bon.
C'est Sylvain, notre professeur, qui a vu ça et c'est hyper, hyper marrant, c'est clair.
Ouais. Du coup, d'ailleurs, toi, tu parles un peu de l'équipe, là, on va en parler. Comment ça s'organise? Tu vois, tu me dis, il y a les deux fondatrices, il y a un gros hacker.
Exactement. On est actuellement une petite vingtaine, si je compte bien tout le monde entre stage, alternance, etc. Et moi, je fais partie de l'équipe marketing. Donc, il y a une partie partenariat où il y a deux collaboratrices. Gros hacking, acquisition avec Sylvain, j'en parle à l'instant. Ouais. Et puis CRM avec Madeleine qui nous a rejoint récemment. Donc, et puis moi au contenu, à la production, on va dire édito, etc. Donc ça s'est staffé et à la base des bases, c'était quand même fait par Dorothée qui historiquement est journaliste dans un magazine de santé. Et en fait, c'était elle qui faisait toute la communication sur les réseaux sociaux. Et moi, je trouvais ça dingos. Je trouvais qu'il y avait un super niveau en tant que, voilà, un peu professionnelle experte du secteur, je me disais qu'il y avait vraiment quelque chose de très très bien comme base et ça m'a donné vraiment envie de l'argent parce que c'était déjà bien là-bas.
Dorothée, c'est une des fondatrices, hein, c'est ça?
Exactement, c'est ça, ouais. Dorothée Barthes.
Une des deux fondatrices, d'accord, ok. Et puis après, le reste de l'équipe, donc t'as plusieurs services, c'est ça? T'as le produit.
Exactement, client, produit, ouais. Service client, Clémentine et Sarah qui sont toutes les deux de front sur ces sujets pour la gestion des commandes, choses comme ça. Et puis, il y a la partie B2B qui est vraiment très importante aussi à préciser, où on va avoir vocation à mettre des distributeurs, que ce soit dans les collectivités ou bien dans les entreprises. Il y a vraiment toute une démarche RSE aussi qui s'implante voilà, maintenant dans les sociétés depuis quelques années. Et ça en fait partie en fait. On ne devrait pas avoir être en rade de protection périodique, à être stressé de faire une réunion avec du papier toilette dans la culotte, en fait. Ça ne devrait pas exister. Donc, nous, on a aussi ce combat de s'implanter dans les entreprises et de se dire que c'est OK d'avoir tout ce qu'il faut sous la main quand on est au travail, quoi.
Ok, ah, super intéressant, ouais, j'avais pas perçu ça, je suis pas allé assez loin dans l'étude de vos réseaux sociaux, mais d'accord, ok, je prends note pour la suite.
On va refaire une petite com là-dessus, là,
d'accord,
sur septembre,
okay.
Ouais.
Ah, c'est intéressant, ouais. D'accord, et du coup, toi, à ton poste, tu gères, donc tu l'as dit tout à l'heure, la création du contenu, le community management, donc l'animation des communautés, la modération, est-ce que tu... t'as retravaillé sur la stratégie. Est-ce que tu travailles aussi sur la publicité ou ça, c'est plutôt Sylvain?
Alors, c'est Sylvain qui... on travaille en binôme sur, on va dire, les accroches et visuellement ce qu'on a envie de pousser. Mais c'est vraiment une partie que moi, je gérais quand j'étais social media manager en agence. Et là, c'est vraiment quelque chose de dédié à la partie grosse.
D'accord.
Voilà,
d'accord.
Donc, ce qui me laisse du temps et surtout, c'est grave son expertise beaucoup plus que la mienne. Donc,
okay.
Mais ça nous arrive bien sûr d'être dans des projets vraiment ensemble, puisque l'édito a une belle part dans l'acquisition. Donc c'est intéressant,
c'est
de travailler en binôme. Ouais.
Ok. Du coup, non, toi, tu es plus du tout sur le contenu. La stratégie de social media, c'est toi qui la mets en place ou t'es arrivé, il y avait déjà des bases? Comment ça s'est passé?
Alors, il y avait de très belles bases, comme je te le disais tout à l'heure, et il y avait déjà des rendez-vous récurrents qui étaient très intéressants, que moi, j'avais envie de conserver. On a eu une refonte aussi de notre logo et de toute notre identité visuelle pile au moment où je suis arrivée, donc ça a été une super occasion aussi de redéfinir les codes visuels, que ce soit couleur, espacement, enfin voilà, de toute la DA, etc. Et j'ai redéfini les priorités des réseaux. Il y avait un réseau qu'on avait beaucoup envie d'investir qui était TikTok. C'était pour nous hyper important de l'investir rapidement avant que la concurrence aussi n'y aille et que ce soit fait un peu à leur sauce. Et nous, on avait envie de vraiment impulser quelque chose de nouveau. Donc, on y est allé et j'ai priorisé aussi par effectif de communauté, bien sûr. Donc, Instagram, on est à plus de 60 700 à date là. Abonnés voilà sur Instagram, donc il y a une part belle à faire Instagram, mais toi-même tu sais, l'algorithme est pas si simple, donc je savais qu'il fallait qu'on passe la seconde aussi au niveau du rythme des publications, ce qui fait que on est à 6 publications par semaine. C'est très dense comme travail de conception, mais je prends hyper plaisir à faire tout de bout en bout, truc que je faisais plus forcément, je faisais plus de programmation, tu vois, quand j'étais social media manager. Voilà, vraiment dernier recours, mais en fait, c'est OK d'aller de bout en bout dans toute la chaîne de création, de production et de publication du contenu. C'est OK pour moi de faire tout ça, quoi. Mais c'est hyper exaltant de voir si, quand ton poste y prend et tu te dis, ah, ça, j'ai changé 2-3 trucs et en fait, le slider avec le petit CTA, c'est OK, ça passe mieux. Enfin, on peut vraiment être en étant vraiment en immersion comme ça. Tester des trucs, quoi.
Ouais. Donc, t'es arrivé, t'as redéfini la priorité des réseaux. Donc, ça, c'est pas mal. Alors, quand t'es arrivé, tu m'as dit aussi qu'il y avait un socle de la communication autour de la femme. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, à propos de ça, tu vois? On en a parlé l'autre jour, du coup. Voilà, c'est intéressant.
Exactement. Donc, on va réaborder le sujet. Ouais. C'est hyper intéressant. En effet, la grande majorité des personnes qui sont menstruées sont des femmes cis, c'est-à-dire femmes cis, je vais un petit peu expliquer, c'est des femmes qui sont nées avec des organes féminins et qui se définissent comme femmes. Voilà. Il y avait une volonté de la part des filles de ne pas invisibiliser tout ça, donc c'est-à-dire de ne pas forcément utiliser un langage, on va dire, inclusif, etc. Et en fait, il y a quand même une petite génération là, qui a la petite vingtaine, les bébés de l'an 2000, qui, avec bienveillance.
La Z,
la Gen Z, exactement. Et en fait, bah, leur combat, nous, trentenaires, c'était l'écologie, etc. Eux, c'est, on va dire, la définition du genre et le fait de ne pas être, de pas se définir comme quelqu'un de binaire, donc homme ou femme, d'avoir la liberté de pouvoir s'exprimer, de pouvoir faire ce qu'on veut sans dire je me sens femme ou je me sens homme, etc. Donc, en fait, il y a ce sujet vraiment montant qui a été préempté par d'autres marques de culottes menstruelles, pas de protection à usage unique, mais de culottes menstruelles et c'est très bien, c'est leur créneau, ils font ça très bien. Nous, on a beaucoup parlé de femmes et on a vraiment insisté là-dessus il y a 3 ans en fait. Et il y a 3 ans, les choses n'étaient pas les mêmes non plus. Enfin, tout va hyper vite aussi dans la communication. Alors certes sur YouTube, on en parlait juste avant de faire le podcast, mais il y a des bulles en fait de vidéos. Alors on peut on a l'ASMR, machin, on peut avoir des tonnes et des tonnes. C'est comme une chaîne télé en fait, de lignes édito et de contenu dispo. C'est en effet quelque chose qui est très abordé sur YouTube, la transition de genre, etc. Mais on savait aussi, on en a parlé avec Inès qu'on a recruté pour qui a donc 20 ans et qu'on a recruté pour gérer TikTok.
Ouais.
Elle m'a dit un truc très très probant, et intéressant, c'est que en fait elle m'a dit: Clémence, si on va sur TikTok en parlant exclusivement de femmes, c'est même pas la peine. J'ai dit ok, je m'y attendais à ce qu'elle me dise ça. Je fais ok parce que on risque de se prendre un four et d'être vu comme des gros boomers qui se disent qu'il y a que des femmes, voilà, l'archétype un peu qui peuvent avoir leurs règles. Et voilà. Et en fait, c'était très intéressant. Et en ouvrant TikTok et en ayant, après un algorithme qui fait très bien son travail, quand on en a regagné une, on aperçoit après 5 dans la rubrique For You, là, pour toi. En effet, il y a vraiment des sujets de fond qui sont abordés sur justement la transition de genre et sur tout ça. Donc, je ne veux pas dire de mots bêtises, hein, parce que c'est vraiment, il y a vraiment un langage très particulier. Donc, disclaimer, si je dis des trucs qui ne sont pas exacts, ne m'en voulez pas vraiment. ça reste vraiment il faut un langage corpo, quoi, pour parler de tout ça. Donc, même d'accord. Si je m'intéresse énormément et que je bouffe plein de vidéos et de docu là-dessus, parce que c'est très, très, très intéressant, j'ai peur de dire des bêtises, donc ne m'en voulez pas. Donc, on s'est lancé sur TikTok en revoyant de manière assez profonde aussi la façon de s'exprimer que j'avais déjà un peu neutralisée. Alors, je mets des énormes guillemets quand je dis ça, c'est-à-dire que je ne vais pas être dans de l'écriture inclusive parce que ça ne nous ressemble pas, parce que c'est un domaine qui est préempté par les autres et c'est ok, mais je vais neutraliser, c'est-à-dire que je vais parler de personnes, je vais parler de nos corps au lieu de dire le corps des femmes, des choses comme ça. Donc voilà, parce qu'on ne veut pas du tout exclure. Mais on n'est pas dans de l'inclusif non plus. Voilà, c'est ça, en fait.
Donc, en fait, l'idée, c'est que tu as repéré qu'il y avait un énorme décalage entre notre génération à nous, la Y, des années 90,
exactement,
à la fin des années 80, et celle des années 2000, donc la génération Z, qui, elle, est portée vraiment sur ces questions-là. Bon, bien sûr, je pense que l'écologie, nous, c'est notre combat, mais c'est aussi le combat des générations Z, à fond. Mais en plus de ce combat, il y a cette partie-là sur le genre non-binaire qui est hyper importante et que nous, on n'a pas... Enfin, moi, j'ai pas du tout... j'ai jamais capté ça, tu vois. Donc, c'est vrai que c'est intéressant de savoir que vous avez pris ça en compte, mais vraiment en considération, c'était vraiment quelque chose d'important, cette aspiration-là, enfin, même sociétale, hein, générationnelle.
Exactement, c'est
pour ça. Pour continuer à avoir une com cohérente et pertinente, hein, pour aussi.
Et puis,
donc, ça, c'est... Ouais.
Et puis pas avancer sans être ouvert en fait. Enfin, juste dire c'est comme ça. C'est une belle opportunité aussi de casser tout ce qui a pu exister avant. Enfin voilà, ça a toujours existé le fait de ne pas se sentir femme cis ou homme cis. Mais juste c'était beaucoup moins abordé de manière médiatique. Donc au contraire, enfin moi je trouve ça ultra chouette que ça avance et que ça permette aussi de mieux se sentir, etc. Donc à notre échelle, si en effet on peut avoir un langage qui fait qu'on se sente pas exclu, c'est hyper important, quoi.
Du coup, il y a cette rupture entre la génération Z et Y et qui est vraiment importante. Du coup, comment tu fais pour le formaliser, ça, tu vois, tu me parlais à un moment d'éléments de langage. Comment ça marche, en fait, ça?
Alors, tu vois, typiquement, quand on s'est lancé sur, donc sur Instagram et sur Facebook, en effet, je suis la copine. Je suis, hein, quand je dis je suis, c'est la ligne édito. Ouais. Je suis la copine de copine. Et sur TikTok, on a bossé la stratégie avec Inès qui a fait ça avec brio. Je tiens encore à la féliciter. On est les grandes sœurs. Donc, ça va être un discours beaucoup plus... enveloppant avec, voilà, on va accompagner beaucoup plus sur les premières règles, sur c'est quoi un kit de survie pour la rentrée, là c'est typiquement celui qu'on a posté hier, et je vais prendre parole. Alors, c'est pas facile de se mettre en scène sur TikTok, c'est marrant, hein, parce que c'est plus facile de le faire en story sur Instagram. Sur TikTok, c'est un peu plus violent, niveau image de soi-même, etc. C'est parce que c'est la vidéo et tout, mais... Et en fait, on va apporter, voilà, des regards sur, voilà, comment on met une cup. Typiquement, voilà, on a fait un TikTok, Inès m'a filmé, c'est quoi une cup? Parce qu'il y en a, il y a plein de petites pré-ados, ados qui ne savent pas du tout ce que c'est, quoi. Donc, et comment ça se met? Donc, voilà, c'est comme si j'étais leur grande sœur qui les guidait sur tout ça, quoi.
Okay.
Tout en étant dans des codes actuels de ce qui se fait sur les trends. En fait, une trend, donc, ça va être un son, un geste, une petite danse, enfin, une façon de filmer pour expliquer le terme
ouais,
trend.
Super. Ouais, super.
Voilà. Et en fait, Inès, quand elle construit, donc, c'est un calendrier édito, elle va se laisser un jeu de deux cases de publication sur TikTok. Pour se dire, bah là, dans la semaine, j'ai identifié ça, ok, je vais pouvoir être hyper actif parce que j'ai mes contenus un peu plus froids sur comment on met une cup, comment changer un tampon, des choses comme ça, qu'elle va pouvoir faire en amont. Donc, en fait, c'est ça. C'est l'ultra réactivité de la trend qui va permettre de grossir la communauté et d'être hyper à propos dans ce qui est attendu.
Ah, c'est super intéressant ce que tu dis. Du coup, Inès, c'est votre stagiaire, c'était votre stagiaire, c'est ça?
Exactement, c'est une stagiaire TikTok là, qui nous rejoint sous un format freelance, en fait. Elle a une journée de dédiée par semaine pour créer des comptes sur TikTok.
D'accord, donc oui, c'est l'ambassadrice de TikTok. Du coup.
Exactement, ouais, vous allez la voir. Bah, c'est assez fort, c'est que du coup, vu que c'est très tourné sur le face cam, le fait de se filmer soi-même, elle nous demande, elle nous sollicite et de temps en temps, vous allez voir d'autres collaborateurs, mais majoritairement, ça reste des vidéos où elle se met en scène. Et ça crée aussi un sentiment de proximité, puisque ça va être toujours la même personne qui va nous expliquer des choses sur le compte et tout. Il y a d'autres marques qui sont nos petites chouchoutes là, chez Jo. Asphalt, par exemple, a recruté une personne tierce pour faire la création de contenu sur TikTok. Et je vous encourage à aller voir ce qu'ils font. C'est très chouette. C'est bien produit et tout. Donc, en fait, c'est ça. C'est merci Andy. Ça va sans se dire. Ils sont très bons depuis le début sur tous les réseaux. Donc, c'est intéressant de voir comment aussi le fait d'être une personne, donc un collaborateur, va aussi drainer toute l'énergie et toute la fibre, en fait, de la marque sur ce canal-là, quoi.
C'est marrant parce que c'est pas forcément quelqu'un qui travaille dans l'entreprise. Ça peut être quelqu'un qui, comme Inès, qui est freelance ou comme sur Asphalt où c'est une personne qui est freelance aussi. Mm. Donc, un ambassadeur, c'est pas forcément. En fait, c'est étrange, tu vois, sur TikTok, je trouve, c'est pas quelqu'un qui représente forcément la marque. Si, il représente la marque, mais il en vient pas, quoi.
Alors, oui, c'est ça, en fait. C'est une façon de faire de l'acting un peu, tu vois. Nous, quand on en tourne un, moi, je connais la marque, je connais le discours par cœur, mais je me mets en posture d'acting. Enfin, on est obligé un peu de surjouer certaines choses, d'avoir des petites gestuelles et tout. Donc, potentiellement, en effet, oui, il y a la marque Make My Limonade aussi qui est très, très forte là-dedans, qui a pris le parti d'avoir, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais de tourner des TikTok avec des danseuses. Donc, tu vois, il y avait ce côté aussi très artistique et complètement désaxé de la com qu'on pouvait avoir sur Instagram où c'était très produit et très market, forcément. Donc, se dire, en fait, c'est OK si demain, ça peut être aussi un influenceur qui, pendant une semaine, fait des TikTok pour nous. C'est pas obligé d'être tout le temps, voilà, quelqu'un qui collabore au quotidien pour la marque, quoi.
Du coup, en fait, quand dans ce cas-là, par exemple, avec Inès, toi, tu supervises pas... Enfin, Inès a fait des études peut-être en CM, c'est ça, ou
ouais,
en com?
Exactement, ou... ça, d'accord. En communication, ouais.
OK. Donc, tu supervises pas forcément... comment ça marche? C'est elle qui crée le contenu de A à Z et ensuite, elle vous échangez sur si c'est OK ou pas, ou elle a le champ libre et...
Elle a le champ libre. Si elle a des doutes sur des éléments de langage, sur des petits raccourcis, des choses comme ça, on en parle, mais à aucun moment je la bride ou je lui dis montre-moi les TikTok que tu vas faire. Elle publie et c'est à chaque fois ma petite surprise. Je dis ah, c'est chouette, c'était cool et ça nous permet de tester des trucs et c'est hyper enrichissant. Mais elle a complètement carte blanche.
Pourquoi en fait les marques, tu vois, enfin là on a parlé d'Asphalt, Make My Limonade, Merci Andy, pourquoi les marques ils engagent des ambassadeurs ou ambassadrices pour leur compte TikTok? Comment ça s'est fait pour JHO?
Eh bien, pour nous, il y a une question de temps, en fait. Vu que je fais tous les contenus social media de A à Z, mine de rien, ça prend du temps, puisqu'il y en a 6 par jour, on le disait. Il y a un petit peu de partie vidéo aussi, que je fais moins maintenant, parce qu'Inès aussi en fait un petit peu. Mais ça s'est fait par aussi, on va dire, aveu de ma part, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Ça, par exemple, en agence, de dire c'est OK de ne pas être experte du TikTok, parce qu'il y a une fracture générationnelle, je suis désolée, mais c'est vrai, de dire, ben, moi, je ponce et je connais par cœur Instagram, LinkedIn aussi, on en parlait l'autre fois, mais en fait, c'est OK de ne pas être un expert et d'avoir tous les codes par rapport à TikTok, qui est un réseau qui a surtout émergé, on le sait tous, sur le premier confinement.
Oui, bah c'était l'année dernière. En fait,
c'est clair, exactement. Et en fait, je me suis mise dessus, ça m'a fait rigoler, j'ai claqué, je ne sais pas combien de fois, 15 minutes à scroller et à me dire que c'était très marrant et très immersif. Mais je passerai jamais autant de temps dessus que sur Instagram, parce que c'est aussi une question de génération. Et typiquement, Inès, elle aime bien Insta, mais ce n'est pas du tout son réseau préféré. Donc, on est hyper complémentaires là-dessus, mais c'est parce qu'aussi, les filles, quand je dis les filles, donc c'est toujours les deux cofondatrices, Dorothée et Colline, ont été OK de dire, bah ouais, en fait, chacun est expert, et du haut de ses 20 ans, elle est vraiment experte de TikTok, quoi. C'est bluffant, donc voilà, en fait, c'est mettre chacun dans son expertise pour retirer le meilleur pour la marque, quoi, en fait.
Ah, c'est... Ok, ça, on va en parler après, dans la partie job CM, tout ça. Du coup, le message global que veut transmettre JHO, comment tu l'adaptes, en fait? C'est quoi ce message global, en fait?
Le message global, c'est ça suffit de prendre des produits périodiques à usage unique ou bien réutilisables, mal conçus, qui sont pas respectueux du corps des personnes menstruées et de la planète, en fait.
D'accord.
Juste, voilà, nos produits, ils sont en coton bio, mais ils sont bien conçus. On a une très forte traçabilité de tout ce qui est fait, etc. Enfin, on travaille des usines en Europe et on sait en fait comment c'est fait. C'est pas avec des produits issus de la pétrochimie ou blanchis au chlore, c'est quelqu'un pour les produits de grande et de moyenne surface et ce que nous on appelle les produits conventionnels.
D'accord.
Donc en fait c'est ça, c'est juste faut arrêter, quoi. Enfin, on mange du bio à toutes les sauces dans notre assiette, on s'en met sur le corps, mais juste dans la partie la plus perméable de notre corps, entre en moyenne 5 jours par mois. Ben, on a des trucs qui sont mal conçus, quoi. Et en fait, moi, la première, ce sujet-là, il y a 5 à 10 ans, je m'en fichais, quoi, en fait. Parce qu'on on a toujours fait comme ça. Donc, en fait, les gros, ils continuent. Et puis, voilà, ça se passe bien pour eux parce qu'il n'y a aucune réglementation sur la transparence, le devoir de transparence de conception de ces produits. Donc, c'est pareil, c'est affligeant, ça. Enfin, là, je fais la vénère, mais parce que...
mais t'as raison. C'est affligeant,
aussi,
en vrai,
au quotidien. En fait, c'est ça. C'est... Et on a fait un mouvement, là, courant juin, vous pouvez retrouver en story épinglée, qui s'appelait le mouvement de protection des chattes, volontairement avec un langage un peu plus péchu que ce qu'on a l'habitude de faire sur nos réseaux, parce qu'en fait, juste, c'est pas normal, en fait, que la conception de ces produits soit pas du tout transparente. Et qu'ils ne soient pas considérés comme des produits de grande consommation, quoi.
Oui, c'est vrai. Ah, ok, donc ça, c'est le message global, donc j'ai bien compris. Mais après, tu m'as dit comment vous l'adaptez, comment tu l'adaptes. Hein, tu l'adaptes en étant la copine ou la copine, où tu peux avoir un certain recul, et en étant aussi la grande sœur ou les grandes sœurs
sur TikTok. Ouais, c'est ça.
Donc ça, c'est intéressant de savoir ça. Du coup, c'est quoi l'objectif d'être présent sur les réseaux aujourd'hui, tu vois?
Alors, nous, ça va être justement de 1, faut pas se le cacher, venir acquérir de nouveaux abonnés, vu qu'on est sous format abonné, ou de personnes qui vont acheter
nouveau,
en one shot.
Nous abonnez pas des followers, hein, des abonnés pour l'abonnement.
Des abonnés, c'est ça. Et puis, par effet, ricocher des abonnés sur nos réseaux, bien sûr. Mais on a un objectif de marketing et de chiffre d'affaires, bien sûr, comme toutes les DNVB. Mais, donc, ça, c'est l'objectif numéro un. Et ensuite, comme je disais, de venir diffuser tout cet engagement que Jo a depuis le début et qui est vraiment issu de... En 2016, il y avait eu un scandale, justement, qui était vraiment diffusé par des blogueuses et des journalistes santé sur, justement, le syndrome du choc toxique, etc., pourquoi ça a eu lieu. Mmh. Donc, en fait, c'est ça, on est un peu en guerre pour que des produits comme Jo puissent être en fait la nouvelle norme, quoi, et que ce soit plus du tout des produits conventionnels qui est la plupart des places dans les grandes et moyennes surfaces, quoi.
Du coup, tu l'as dit, hein, l'objectif d'être présent, c'est faire de la vente, bien sûr. Il faut qu'une entreprise soit rentable aussi à un moment.
Exactement.
Et il faut aussi que ça soit rentable pour aider les ONG, sur vos combats, quoi.
Carrément.
L'objectif, c'est aussi de montrer cet engagement dans le message, tu disais, augmenter les abonnés des comptes de réseaux sociaux. C'est un faux objectif, c'est pas un vrai objectif, mais pourtant il y a beaucoup de marques, beaucoup d'entreprises qui se réfèrent uniquement à ça aujourd'hui encore.
En fait, c'est que c'est toujours, tu sais, c'est un peu mon concurrent il attend, donc il faut que je vienne le dépasser. C'est vrai que tu as vachement cette culture-là aussi quand tu travailles en tant que prestataire. Oui. C'est vrai que c'est intéressant d'en reparler. Et en fait, si tu expliques par A plus B que tu vas avoir des gens, mais qui vont être volatiles, qui vont pas être qualifiés, qui vont partir, que tu vas peiner à en retrouver d'autres, et surtout que ça se fait pas parce que au final ça ne va pas convertir, ça s'entend bien en fait. Et par contre, l'autre penchant, et c'est intéressant de le dire, c'est que nous, par exemple, on a nos 60 000. On va
sur Instagram.
On est à 32 ou 33 000 sur Facebook. C'est intéressant parce que c'est un espèce de curseur pour pouvoir collaborer, faire des concours ou des partenariats avec d'autres marques. Tu te jauges un peu, en fait. Tu vois, c'est bien normal que tu sois un petit peu plus réticent quand tu es à 60 000 à faire une collab avec quelqu'un, une marque aussi petite et intéressante soit-elle dans ses valeurs et tout, à 1500 abonnés. Mmh. Parce qu'en fait, il y a une question de MeToo et de win-win, pardon, sur le fait de gagner en visibilité quand on fait un concours. Donc, après, ça va nous arriver aussi de travailler avec des marques plus petites et qui vont être hyper... intéressante au niveau de ce qu'elle propose, et ça on l'a déjà fait. Mais ce 60 000 en tant que marque permet aussi de se jauger. Voilà, je veux pas être langue de bois, ça permet de se jauger entre marques aussi, c'est vrai.
Ah ouais, mais c'est super intéressant parce que ça on en parle, enfin moi j'en parle rarement aussi, mais après toi dans ta communauté, enfin vous vos communautés, enfin vous les, enfin tu les connais parfaitement, 60 000 ça correspond à peu près à c'est sur Instagram vous visez plutôt les 25-34 ans, c'est ça?
Exactement, ça, c'est notre cœur de cible. Mais on va aller, quand je regarde mes stats là, sur les audiences, on a du 18 jusqu'à 50, quoi.
Vraiment. D'accord.
Ouais. Mais notre cœur de cible, ça reste la 25-34 ans.
D'accord. Ouais, tu vois, c'est quand même intéressant. Du coup, on va rester sur Instagram, tu vois, parce que là, on a parlé pas mal de TikTok tout à l'heure, c'est super cool, c'est super intéressant, mais moi, je me sens un peu largué aussi sur ce réseau. En fait, je suis largué sur ce réseau, mais quand il faut adapter un message, et avec les bons codes, c'est vrai que, utiliser ce réseau aujourd'hui, c'est vachement important pour plein de marques, et ça peut aussi marcher dans le B2B, hein, d'ailleurs. Mais il faut comprendre les codes, c'est ça qui bloque un peu à l'entrée.
C'est
pas
ça.
Mal.
Ouais. C'est mais... vraiment très codé. Tu, ouais. tu fais bien de le dire, ouais. c'est qu'on n'arrive pas comme un gros boomer en se disant là, alors attends, je vais mettre ma, ma perche à selfie ou je vais mettre ma ring light et puis je vais faire deux, trois danses. Et ce qui fait des, bah, des espèces de Amandine du 38 après, enfin des trucs qui nous font rire, mais un peu malgré eux. Et, ouais. et c'était ouais. juste impossible que moi, n'ayant pas tous les codes, je, j'aille au casse-pipe comme ça. Enfin,
ouais. mais, oui, par, oui, c'est
mais par contre, c'est vrai que c'est un vrai travail sur soi de se dire, bah, c'est OK en fait de ne pas savoir. Et, et bah, oui. si on n'a pas les codes, si on ne se dote pas d'une, d'un talent et d'une personnalité qui a ses codes, mais tu ne le fais pas. Voilà, tu, tu dis c'est une question de ressources et de temps consacré à ça, de potentiel aussi, parce que voilà, si t'es marquant B2B et que tu travailles, je sais pas, dans les RH, bah non, enfin, après, il peut y avoir des sujets intéressants, mais le potentiel d'audience, c'est pas ça pour toi, donc go sur LinkedIn et perds pas de temps, quoi, ouais.
Oui, c'est sûr, c'est sûr. Non, mais ça, c'est super intéressant de le dire, parce que aussi, c'est le job du CM de, d'être conscient de ça, de se dire, ok, j'ai pas... J'ai pas les, les codes, je connais pas bien le, mon entreprise ou quoi, elle a pas l'air d'être, elle a envie d'y aller dessus, mais elle, elle me force un peu la main. Le rôle du CM, c'est de dire aussi à un moment, attention, là, vous, là maintenant, vous jouez un peu votre image, donc il faut faire très attention. Ouais. Ok, donc sur Instagram, du coup, alors moi, j'ai vu plusieurs choses sur le fil. Alors, j'ai remarqué un truc intéressant, on en parlait. Tu vois, le contenu sur le fil d'actualité, il est, c'est lui qui nourrit le fil d'actualité de Facebook. Enfin, ça, c'est une hypothèse hein, que je mets. Et par contre, les reels ou les réels, je sais pas comment on dit vraiment, mais il y a toujours un débat là-dessus, reels ou réels.
Eh ben, on dit que tu dis comme tu veux, voilà.
voilà. Ouais, parce qu'en vrai, c'est les mots, ils existent aussi bien en français qu'en anglais, donc voilà. Donc, on va rester sur le français, les réels, qui pourraient s'apparenter à TikTok, ils n'ont ils ont rien à voir sur TikTok, tu vois.
Ouais, bah forcément, parce qu'en fait, et puis tu le vois de plus en plus maintenant, des marques qui partagent leur TikTok en story. Et go le faire, c'est vraiment, ça peut être sympa. Sauf que nous, on ne va pas du tout raconter la même chose, puisque comme je le disais, on n'a pas le même positionnement.
Et oui, parce que les grandes sœurs et la copine de la copine, ça n'a rien à voir.
Voilà, c'est ça. Et si on arrive avec notre TikTok en story pour, je ne sais pas, on va dire Marie qui a 35 ans, qui n'a pas téléchargé TikTok et qui se dit, mais attends, qu'est-ce qu'elles essayent de faire en fait, enfin, c'est quoi ce truc, cette danse, cette musique, tu vois. Ben non, en fait, la poule, je vais la perdre et j'ai pas envie de la perdre parce qu'elle est cool et que j'aime bien échanger avec elle en MP. Et en fait, ça, c'est juste... Si vous êtes sûr d'avoir vraiment la même audience sur les deux, ben faites-le. Et vous avez raison de faire un peu du mix contenu. Et il faut, hein, pour gagner du temps et tout, c'est intéressant. Mais nous, c'est vraiment, on cloisonne et ça se porte très bien comme ça. Donc, c'est intéressant aussi de pouvoir se dire, on a la chance d'avoir les ressources pour pouvoir faire tout ça. Et voilà. Quoi.
Donc, tu as un post par jour quasiment.
Ouais.
Ça fait, tu disais 6 tout à l'heure.
C'est ça.
Donc, ça, c'est en fil d'actualité uniquement. Hein. Donc, les stories, pareil.
Aussi, les stories, je suis à.
Une story par jour.
Ouais, même
ou
plus.
Deux, trois.
Ouais, minimum. Ouais. Enfin, il n'y a pas de. Il n'y a pas de. On va dire de volumétrie, définition de story. Mais on sait tous que voilà, si tu n'en fais pas pendant un jour, c'est un peu chaud pour toi.
C'est sûr. Du coup, ok, donc tu as les posts à story, tu as les réels. Les réels, t'en produis combien par semaine? Un ou deux ou...
Ça va, au début, je sais, quand j'ai pris le post, j'en faisais beaucoup plus que maintenant. Je sais qu'il y a aussi la volonté là, d'Insta de propulser beaucoup plus la vidéo et tout. Mais il faut aussi savoir, et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant, que j'ai plus compris et saisi, même si là sur la fin de ma période en agence je l'avais saisi, mais on va pas juste faire un réel pour faire un réel et se dire parce que c'est la trend et qu'il faut y aller. Non, si j'ai rien à raconter en réel, bah je le fais pas en fait. Enfin, je vais pas créer du contenu parce que c'est l'algo tout le temps. Alors j'en fais 6, hein, je vais pas non plus voilà, c'est quand même aussi parce que je veux être visible et tout. Et que j'ai quand même pas mal de choses aussi à raconter avec tous les contenus et toutes les typologies. Mais s'il n'y a rien à animer en réel, qu'on n'a pas un temps fort avec l'équipe, une OP, machin et tout, on n'en fait pas en fait, c'est pas grave quoi. Enfin,
C'est quoi qui dit, tu vois, le réel, tu dis, on n'a rien à raconter en réel. Ouais. Temps fort, une OP, un réel sur chez Jo, c'est un réel sur un shooting photo, un truc comme ça ou...
Des behind the scene, trois gestes. Enfin, par exemple, là, tu vois, à mon retour de congé, je vais faire un petit réel sur l'abonnement. Donc, en fait, je vais séquencer, je vais avoir mon petit storytelling et tout. Et ben, ça se prête à fond, en fait, parce que je vais pouvoir mettre les trois temps de j'ouvre le placard, c'est vide. Enfin, tu vois, après, à voir comment on définit tout ça. Mais en fait, il y a des choses qui vont bien s'y prêter et d'autres choses où tu vas favoriser, bien sûr, le slider. Et en fait, c'est en fonction de ce qu'on a à mettre en avant, de la façon dont on a envie d'accrocher l'attention sur une sortie produit, sur un renforcement produit. On va se dire, bah là, la culotte menstruelle, on a envie d'expliquer comment on l'entretient. Le réel, ça va hyper bien. Parce que tu vois, tu peux mettre, voilà, tu la pré-laves, t'attends que ça sèche, machin. Enfin,
oui, ça, j'ai vu ce réel-là, du coup.
Et qui a cartonné.
Ouais, mais du coup, ça, là, c'est une personne de votre équipe aussi.
Exactement.
Qui est mise en scène.
C'est Morgane,
donc, chef innovation, d'accord.
Exactement, ouais. C'est ça.
C'est vrai que c'est intéressant, parce qu'on voit, en fait, toute l'équipe y passe, finalement.
Oui, oh, oui, oui. La plus grande partie des collaborateurs et collaboratrices y passent. Et c'est avec plaisir aussi qu'on va amener des visages différents de ceux de Colline et Dorothée, qui sont pas mal poussés en acquisition parce qu'elles sont ultra légitime pour défendre justement notre positionnement et notre cheval de bataille qui est le coton bio sur les protections périodiques, avec tout le discours justement cause, etc. Et en fait, le mot d'ordre un peu de l'équipe, c'est si t'es légitime pour parler d'un sujet, mais go le faire. En fait, on va pas prendre un tel ou un tel, tu vois, enfin voilà,
okay. Si tu prends la personne directement,
voilà,
ouais, d'accord.
Exactement.
Ça, et ça, pour convaincre l'équipe, enfin les personnes étaient déjà convaincues ou c'est vraiment, il a fallu batailler un peu pour convaincre les...
Non, pas, enfin, il faut le respecter, t'as des personnes qui n'ont pas envie d'apparaître et mille fois on le respecte et au contraire c'est hyper bien aussi de faire la distinction entre tout ça. Et après, tu vois, récemment j'ai envoyé une petite fiche en disant voilà, si vous voulez apparaître sur le site, faut le signifier, si vous voulez pas forcément apparaître sur le site, c'est pareil, vous me le dites. Et en fait, il n'y a pas ce moment gênant où t'es dans l'open space, bon, on a une petite vidéo à faire. Maintenant, je sais qui est ultra chaud pour faire demain un TikTok avec Inès ou apparaître dans une story avec moi. Enfin, voilà.
D'accord. Ouais, donc ça se fait assez naturellement.
Ouais, quand même. Enfin, franchement, oui. Et puis, il y a un très bon mood et une entente hyper, hyper forte. Donc, on est les premiers à se dire, voilà, on va péter un confetti. C'est un peu la marque et la touch de Jo, le pétage de confetti. Ouais. Il y a un peu galère à ramasser après. Ça, on le monte de temps en temps, mais vraiment, c'est galère.
D'accord.
Et en fait, ça, c'est des vrais moments, en fait. Ça nous arrivait d'en péter sans les filmer, en fait. Parce que Jo, c'est ça. C'est, on pète des confettis dès qu'on a une bonne nouvelle. C'est pas tout fait,
C'est super. Ouais, non, mais c'est vrai que ça fait bonne ambiance, tu vois.
Exactement.
Et il y a l'emoji pétage de confettis aussi qui
est très fort.
Qui a été relié, voilà. C'est marrant, les emojis, on en parlait aussi. Tu disais sur TikTok, c'est un peu has-been, les emojis.
Ouais, c'est un vrai sujet aussi avec Inès.
Ouais.
En fait, donc ta description, enfin ton petit editing de TikTok, mais tu mets pas d'emoji en fait. Là où nous, sur LinkedIn, on nous dit pour mettre en exergue des trucs ou sur Instagram, tu mets de l'emoji.
Les algorithmes.
Tu vois, voilà, c'est ça. Avec ton petit CTA, ta petite flèche et tout. Mais là, juste non, en fait, les emojis, poil, c'est dépassé. Donc voilà, il faut pas mettre d'emoji sur TikTok.
Oui, c'est bien qu'on parle d'algorithme. Est-ce que la production, qui est quand même assez énorme de contenu là, sur Instagram, elle est faite pour calquer aux demandes, aux besoins de l'algorithme? Il n'y a pas longtemps, je disais qu'un compte en tout de 1000 abonnés, c'était 15 publications par semaine, entre 1000 et 250 000, c'est 15 à 20 publications par semaine.
Ouais.
15 à 20 publications par semaine, c'est juste... monumental, quoi. Enfin,
c'est une espèce de course, hein, c'est vrai. Enfin,
c'est une surenchère. Ouais.
Nous, on en
à
fait...
cause de TikTok.
Ouais, c'est ça, à cause de TikTok. Mais nous, on en fait 6, je vais te dire pourquoi. Parce que dans notre stratégie de valorisation de messages et de produits, on a toujours un truc à dire. Enfin, que ce soit moi des contenus de connivence, donc qui vont justement amener à taguer, etc. C'est hyper intéressant et ça fait partie de l'ADN aussi d'avoir ce contenu de proximité. Moi, je vais forcément en avoir un. Je vais avoir un contenu produit, un contenu partenariat avec nos égérés ou avec d'autres marques avec lesquelles on peut collaborer. Je vais avoir une relance produit, tu vois, typiquement. On se dit, voilà, ça, ce produit-là, ça s'y prête bien parce qu'on est sur la période estivale, donc full tampon, on va revaloriser cette gamme. Et puis des contenus d'équipe parce que c'est la signature et que ça me paraît complètement aberrant de pas en mettre au moins par semaine. Là, c'était particulier. Il y avait les vacances, donc quand t'as pas tes 20 collaborateurs sous le coude, bah tu peux moins faire des trucs fun et tout. Mais voilà, en fait, moi j'ai vraiment limite par jour. Je sais, le lundi ça va être lancement produit, le mardi va y avoir.
D'accord. Ah, tu classes comme ça du coup.
Exactement.
D'accord. Ouais. Et bah, j'ai vu un post aussi Insta. Vraiment, ça m'a surpris. Attends, juste six publications. Est-ce que c'est six publications dans le fil d'actualité ou c'est six publications tout compris, c'est-à-dire story, réel?
Six publications fil. Ouais.
D'accord. Ok. Mais en fait, t'en fais plus que six en fait. Parce que si tu fais de la story et le reste, t'arrives à bientôt à 20. Bah, donc c'est le minimum sur Insta. Non mais je dis ça, mais en fait, en vrai, c'est une vraie. Pour moi, c'est une vraie.
C'est dur quand même. Et je compte pas parce qu'il y a des semaines qui sont plus denses que d'autres selon si on a une com et tout. Oui. Je suis facile à, je sais pas, 40, 50 au total. Mais
d'accord.
C'est sûr.
Ok. Donc c'est donc c'est bien. T'es dans la plus que dans la moyenne. Donc
ah bah tant mieux.
Non, mais après moi je sais pas, je regarde les stats de temps en temps, mais je me dis c'est quand même une très grosse production de contenu. Ça demande vraiment un investissement hyper impressionnant quoi. Ok, donc c'est pas mal. Et du coup j'ai vu un truc marrant. Tu vois, je reprends ce qu'on disait juste avant. Aussi, alors je sais pas si c'est bien ça, mais tu as pris une capture d'un post sur Facebook d'un commentaire qui disait vous en avez pas en taille 56. Et toi tu réponds, tu vois. Et,
au-delà du 46, c'est ça, ouais.
Au-delà du 46, ouais, c'est ça. Et du coup, ça, c'est marrant que tu utilises quand même Facebook encore, tu vois, pour.
Bah parce qu'en fait, on fait donc, comme on le disait, de l'acquisition. Et, et souvent, bah voilà, ça, c'est typiquement de la modération issue de l'acquisition et tout.
D'accord.
Le boost, voilà. Donc, mais on en a aussi en organique, bien sûr. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on clame qu'on est juste et honnête. Bah, go, en fait.
Ouais.
Enfin, juste, je vais vous montrer que voilà, c'est ce qui existe. Ça a été répondu comme ça. Vous voulez qu'on pose encore plus ce sujet, mais mille fois, on se retrouve en DM. Il n'y a aucun problème. Et ça fait du bien, en fait, de se dire, bah, en toute transparence, regardez ce qu'on peut répondre. Et on a une réponse qui vous satisfait ou moins, mais en fait, regardez, et on n'a pas à se cacher, en fait, vraiment.
Ouais, d'accord. Il y a aussi des mèmes que tu essayes les mèmes.
Ouais.
C'est intéressant, c'est important sur Insta, les mèmes.
Mais grave. Enfin, je veux pas griller mes cartouches, mais on va collaborer avec une créatrice de mèmes sur la fin d'année, et j'ai trop hâte, parce qu'en fait, c'est hyper intéressant. C'est les nouveaux, enfin c'est une nouvelle version de YouTube aussi, c'est des nouveaux créateurs de contenu quoi. En termes d'engagement des boîtes, enfin beaucoup plus pour moi que des influenceurs, parce qu'en fait on les suit pour ça, pour avoir des petits rendez-vous fun et des petits contenus marrants, donc en fait on sait à quelle sauce on va être mangé et ça c'est vraiment, enfin moi j'y crois hyper fort et j'ai trop envie de collaborer avec plein de comptes comme ça quoi.
Bah c'est vrai que les mêmes, moi j'essaye d'avoir depuis un an un compte pour passer dans le podcast, d'un compte de même dans la mode, et du coup voilà, j'essaye de l'avoir, mais c'est compliqué. Les mêmes, vraiment, je trouve que c'est difficile à faire. Il y a vraiment.
C'est vraiment tout un art.
Voilà.
C'est vraiment de la conception et d'action, et moi, même si je surkiffe ça. Faut aussi beaucoup de temps, alors j'en ai fait quelques-uns, mais faut beaucoup de temps de recherche iconographique.
Ouais.
C'est un temps de maboule.
Il faut avoir un fond sarcastique aussi, très puissant.
C'est ça, bah bien sûr. Alors, juste la concision de. Parce que tu peux pas mettre beaucoup, beaucoup de choses. Donc,
c'est sûr.
Ça fit bien, quoi.
Comme tu dis, c'est tout un art. Donc, ok, ça c'est intéressant de savoir qu'en tant que CM, tu dis pas je vais essayer de tout faire moi-même, on va plutôt faire des partenariats et tout pour pas se griller, quoi. Ouais.
Exactement, parce qu'en fait, c'est comme aller sur TikTok en n'ayant pas les codes. Ben, tu peux tenter, mais ça fait bah, has-been, parce que tu as
Ouais.
testé que c'est pas dans les règles de l'art. Après, tu peux en
Ouais,
faire
t'as tout.
des petits homemade et qui vont bien plaire et qui vont avoir leur petit succès, tu vois. Enfin, ceux que je vais avec le petit chat et tout, c'est cool.
Oui.
Mais si tu veux avoir, moi, je le trouvais mignon. Mais
Ouais.
si tu veux faire des trucs avec un niveau et une pertinence au-dessus, mais en fait,
Ouais.
bah, il y a des comptes
Oui.
très
Oui,
pertinents pour
il y a
ça
des personnes
et fais-leur
spécialisées. Ouais, c'est
confiance
sûr.
et maque-toi avec eux, quoi. Enfin, vraiment.
Après, comme tu dis, si tu sais pas faire, vaut mieux pas y aller, tout simplement, quoi.
Exactement,
Le même,
franchement,
le TikTok,
c'est
il vaut
exactement
mieux pas.
ça.
Ouais, ok. Et tu vois, et aussi, sur Instagram, en fait, Instagram, moi, je trouve que c'est devenu un énorme. C'est un réseau social. Il y a plein de réseaux sociaux dans ce réseau social, en fait. C'est devenu une énorme usine. On le voit, enfin, avec les réels, la story. Les mises à la une, le fil d'actualité, les différents formats dans le fil d'actualité,
Ouais.
les carrousels, tout ça, la boutique, et IGTV, tu vois, c'est tout à fait énorme maintenant, c'est un
C'est ça.
écosystème, en fait, à l'intérieur, tu vois. Et ce qui est intéressant, c'est de voir sur IGTV aussi, vous avez des contenus qui ont encore rien à voir, qui sont encore différents,
Ouais.
où là, on voit plus un axe pédagogique, pédagogie avec
Exactement.
des professionnels,
Ouais, avec
intervention
les
au sein
mojo,
d'une
c'est
femme,
ça, ouais,
ouais.
exactement. Qui sont des contenus
Les
un petit peu,
mojos,
ouais, les mojo, ouais, on les
d'accord.
appelle, qui sont
Ok.
en effet volontairement beaucoup plus instructifs, pédagogiques et à destination de toutes les personnes qui se posent des questions. Là, typiquement, on a posté un sur le périnée, qui était un peu
Ouais.
plus dense au niveau durée que les autres, parce qu'en fait, bah, il y a aussi toute une culture de la désinformation, de plein de choses, en fait, autour
Ouais.
de tout. Tous les organes, etc. Donc, c'est important aussi pour nous de dire, ben, s'entoure de professionnels qui peuvent vous apporter des choses et qui ont plein de trucs à expliquer et qui sont très actifs sur les réseaux. Ça, c'est assez nouveau aussi, c'est très intéressant de cette génération-là. C'est que,
Oui,
ben, avant, ton
c'est
kiné
vrai.
était pas sur Instagram, quoi. Ton
Oui, c'est
kiné,
clair.
t'allais le voir une fois
Ouais.
l'an, et puis bah basta,
Ouais.
et il t'apportait pas plus comme accompagnement. Donc c'est pour eux aussi tout en étant bien dans ce qu'ils savent faire, mais en apportant des conseils au quotidien. Enfin voilà, et puis c'est hyper enrichissant, quoi.
Mais là, du coup, ce contenu-là, il est exclusif à IGTV. Il n'est
Oui,
pas ailleurs.
ouais, c'est ça.
D'accord. Ok, ça
Exactement.
c'est marrant, tu vois. Enfin, ça veut dire que tu crées du contenu exclusif à chaque placement dans le réseau social, quoi, on
Ouais,
va
c'est
dire.
ça. Et on faisait même des lives. On peut en parler brièvement, mais le succès des
Ouais.
lives post premier confinement, deuxième confinement, enfin c'est horrible en fait, parce que tout le monde là, je confonds toutes les semaines, tous les mois, mais il y avait une période là en 2021 où tout le monde y allait à 19h de son petit live. Et t'avais une commu à 60K, enfin à l'époque on devait être à 53, on atteignait 40 personnes. Mais s'il te plaît en fait, parce que tout le monde avait été sollicité pour des lives tout le temps,
Oui.
et t'as beau être chez toi parce que c'est couvre-feu, voilà, c'est la période du couvre-feu
Oui.
à 18h, ben en fait, et des marques comme Le Bon Coin, je me connectais, mais ils étaient à 100 personnes. Bah, parce qu'en fait, c'est saturé, que si tout le monde y va de son petit live, il n'y a plus trop d'intérêt pour la personne, et enfin, tu vois,
Et ouais,
c'est
non, mais
trop
c'est clair.
saturé,
Mais
quoi.
en fait, ce qui s'est passé véritablement cette dernière année. Enfin, c'est vraiment l'avènement de TikTok, déjà, TikTok qui émerge de on sait pas de vous, et tout à coup, ce confinement qui arrive, et là, ça a tout chamboulé, quoi, encore,
Tous les
dans la
usages, tous les
manière.
codes, toute la lassitude aussi qui a été
Ouais,
beaucoup
totalement, ouais.
plus active, enfin qui s'est vachement plus accélérée que ce qu'on pouvait voir sur les années précédentes. Et il y a une espèce de péremption des contenus qui est beaucoup plus rapide, quoi. C'est clair.
Oui, et puis il y a aussi la communication au niveau de la marque et au niveau plutôt des personnes qui travaillent dans la marque, qui s'est accrue, hein. Enfin, qui était
Oui.
déjà existante avant, mais là, qui s'est vraiment accrue et
Le
qui
côté
augmente de plus en
incarnation
plus.
et tout, et bien
Incarnation, ouais.
sûr, ouais. Le fait de
Bah,
se mettre en avant et tout, ouais.
ça, on le voit. Alors, ça, je sais pas si vous le faites vous. C'est notamment, ça se passe sur LinkedIn, là, plus. On sort d'Instagram. Instagram, où vous incarnez la marque avec vos personnalités,
Ouais.
on le voit, mais sur le compte vraiment de la marque. Sur LinkedIn, aujourd'hui, il y a plus en plus de marques, de startups, d'entreprises qui font communiquer leurs employés avec les profils LinkedIn. Ça s'appelle l'employé advocacy, donc
Exactement,
le programme ambassadeur.
ouais.
Est-ce que vous avez mis ça en place ou pas?
Ouais. Alors, on l'a fait de manière assez massive et assez unique sur la vidéo des 3 ans, qui a été diffusée en début mai, qui était aussi la façon pour nous de lancer la nouvelle identité visuelle. Et en fait, on a fait un petit programme vraiment employé advocacy. J'ai proposé à tous les collabs de poster le fichier natif, donc la vidéo, et de ne pas partager, parce que tu sais très bien comme moi que ça marche pas quand tu partages.
Sur LinkedIn, ça marche pas.
Voilà, ouais. C'est ça. Et en fait, même si on a des groupes potentiellement, tu vois, je pense normalement avec Sylvain, on a des connectas similaires parce qu'on est dans le market et tout. Mais en fait, on a eu tellement de vues sur cette vidéo et le truc hyper cool, c'est que genre 20 jours, j'ai compté, hein, 20 jours après, même 25 jours après, j'avais encore des commentaires et des likes. Parce
donc
qu'il
c'était
une
la vidéo
de très
deux fondateurs.
Ouais, c'est ça. C'était une vidéo que Dorothée avait faite qui résumait les 3 ans, nos engagements, etc. Et tout le chemin parcouru qui est assez fou quand même. Et hyper fait avec les moyens du bord, mais touchante et pile le bon message qu'il fallait au bon moment. Donc c'est très cool. Quoi.
Et la traînée de poudre, je te coupe en plein milieu, désolé. Mais, donc il y a eu quand même une énorme. Enfin, sur chaque. En fait, tu l'as dit, qu'il fallait poster sur chaque profil dans la marque. Enfin, tous ceux qui avaient un profil, en tout cas, pas tout le monde peut-être, mais tous ceux qui le voulaient bien.
Exactement. Sur la base du volontariat, ouais.
L'ont publié, ouais. Et pour le petit message, est-ce que c'est toi qui a écrit un truc, réécrit un truc ou non?
C'est intéressant que tu me dises ça parce que moi, forcément, j'ai une grosse appétence pour le rédactionnel. Mais typiquement, tu as des personnalités qui sont sur LinkedIn mais qui vont pas rédiger de post, ils ont bien raison, c'est normal, hein, faut pas se forcer. J'avais dit écoutez, voilà moi ce que j'ai fait pour la marque, parlez comme vous êtes. En fait, si c'est tout fake, si c'est du copier-coller machin, ben ça va se sentir. Et juste ça se voit, on n'a pas envie de ça parce que il y en a mille comme ça des messages un peu lissés, hashtag bienveillance machin. Donc en fait, comme McDo là, vous venez comme vous êtes, vous avez envie de faire court, vous avez envie de palabrer sur votre tour de allez-y en fait. Enfin et il y avait pas de brief. Le brief c'est qu'il y avait pas de brief. Voilà, c'est ça.
D'accord, ça c'est hyper cool aussi parce que du coup ça correspond à la ligne JHO, donc juste et honnête. mais ce qui est cool, c'est que en vrai, cette pratique-là, elle est vraiment utilisée à tort et à travers de plus en plus sur LinkedIn. Il y a beaucoup de marques qui forcent leurs collaborateurs à publier.
Ça sonne faux.
Ouais, ça sonne faux et les gens, ils n'ont pas envie de le faire et en plus, ils n'ont pas envie forcément de publier sur leur profil. En fait, quand c'est une obligation, c'est horrible et ça se voit en fait.
Ouais.
Et c'est ça, quand t'es CM, je pense qu'il faut vraiment faire gaffe à ça. Quand t'es un patron ou un dirigeant qui te dit il faut faire ça parce que comme ça, il y aurait plus de vues. C'est vraiment les limites à cette pratique, je trouve.
Et puis
toi, dans ton cas,
à la frontière entre le professionnel et le personnel, parce que tu sais pas où demain, t'as un collaborateur qui est un peu en sous-marin en train de rechercher ailleurs et tu lui demandes de valoriser ton entreprise actuelle, c'est quand même conflit d'intérêt plus perso en me disant je suis pas hyper en phase avec ce que j'ai à promouvoir, on sait pas. Dans une même boîte, ça peut très mal se passer et on te dit vas-y, pousse, c'est génial, la photo d'équipe, machin. Non. C'est libre à toi de le faire ou de ne pas le faire. Enfin, moi, j'ai toujours été hyper picousée de parler de mes expériences parce que ça me plaît, parce que je m'y sentais bien. En fait, c'est pas du lèche-botte ou je sais pas quoi. Si je le sens pas, je le fais pas.
En tout cas, c'est intéressant d'avoir cette liberté chez vous. Je pense que vous êtes. Il n'y a pas beaucoup de boîtes où tu as le choix en vrai. C'est vraiment. Ça, c'est. Pour moi, il y a vraiment des avantages à cette pratique-là. L'employé advocacy, ça peut être super quand c'est fait dans les règles de l'art, un peu comme chez vous.
Ouais.
Mais il y a vraiment des limites aussi à ça. Et ça, c'est intéressant de le savoir. Du coup, LinkedIn, ça, vous y êtes. Enfin, pourquoi vous êtes présent sur LinkedIn?
Alors,
pourquoi vous communiquez avec la page de marque et avec les profils?
C'est intéressant parce que j'ai vraiment réaccéléré toute la communication sur LinkedIn puisque on est quand même 20 collaborateurs, donc il y a du gros potentiel aussi pour partager, tout ça on le disait. Les filles, elles ont un maillage de réseau qui est assez dingue de par leurs expériences différentes et puis tous les contacts qu'elles ont pu avoir en créant Jo. Donc il y a un gros potentiel au niveau des deux cofondatrices. Et puis surtout, on est quand même sur un CSP qui va être intéressé par nos produits. catégorie socio-professionnelle qui va acheter, puisqu'on est sur des produits qui sont plus chers que des produits conventionnels, parce que faire en coton bio, ça coûte plus cher à produire. Donc forcément, une boîte à 5,90€, ben, potentiellement, les personnes qui consultent LinkedIn vont avoir le pouvoir d'achat aussi pour se l'acheter, donc, ou le mettre dans leur entreprise. Il y a le vrai volet B2B qui est très important pour nous, et il y a un champ des possibles au niveau notoriété sur LinkedIn qui est hyper intéressant. Donc moi, c'était vraiment une envie quand je suis arrivée de dire on va beaucoup plus communiquer sur LinkedIn sans avoir une vraie ligne édito, parce que c'est plus de l'opportunité quand on a un article, quand les filles vont aller défendre la marque sur un prix, etc., comme on a pu avoir récemment. Mais en fait, on va pas se dire, allez, on va à 3 publications. Non, là, c'est pareil. On va parler quand on a quelque chose de pertinent à dire, qu'il y a un truc cool qui s'est passé, qu'on a envie de sonder aussi. Ça m'est arrivé de sonder il y a pas longtemps sur qu'est-ce que vous attendez d'un produit en 2021. C'est très intéressant. Donc, en fait, c'est juste si on a envie d'avoir des inputs ou de diffuser un message qui nous est cher, ben, on y va. Et si on n'a rien, ben, on n'a rien, quoi.
D'accord. Ça, c'est intéressant de dire, OK, on ne se calque pas sur la fréquence.
Non, par contre, pas sur
post,
LinkedIn,
on s'en fiche. Mm. Ouais. Mais voilà, c'est vraiment sur le message qu'on a dit ou pas, quoi. Ouais.
Exactement.
Du coup, est-ce qu'il y a une hiérarchie d'importance sur les réseaux où vous êtes? Est-ce que, on n'a pas parlé de YouTube ni de Twitter, parce que je pense que c'est un peu différent encore, mais est-ce qu'il y a il y a des réseaux les plus importants que tu vas beaucoup plus travailler que d'autres?
Ouais. Ben, c'est lié à l'effectif de la communauté aussi, mine de rien quand même.
Ouais. Oui.
Avec le potentiel de personnes qui peuvent voir tes messages. Donc, first one, Instagram, et moi ça me va bien parce que j'adore ce réseau. Après, Facebook aussi, parce qu'on fait pas mal d'acquisitions et que c'est quand même intéressant, même si en organique, on reach.
C'est vrai, Facebook, on n'a pas parlé.
Tu me parlais du fait qu'il y avait le même timeline sur Facebook que sur Instagram.
Ouais.
Je veux vraiment, en toute transparence, te dire ce que je disais à mes clients, et s'ils écoutent, ils rigoleront. Mais quand j'étais en agence, je disais à mes clients, qu'est-ce que vous faites à poster la même chose sur Instagram et sur Facebook? Qu'est-ce qui va faire que demain, on va suivre Instagram alors que j'ai la même sauce sur Facebook? Oui.
Ouais.
Dans la réalité, au final, quand tu es dans l'annonceur et que tu fais de bout en bout toute la conception, la programmation, etc., la modération de tes messages, il y a un moment, tu peux pas avoir tes deux lignes édito. Enfin, tu vois, c'est une question de ressources aussi et de timing.
Ouais.
Donc, si tu as envie de faire des choses très quali et de tout favoriser sur un réseau, tu te dis que potentiellement, ça peut être du duplicata sur Facebook, c'est OK. Mais par contre, ça a été violent parce que pour moi, je disais tout le temps à mes clients, non, il faut pas faire ça. Et je suis d'accord que c'est hyper intéressant d'avoir deux choses complémentaires et différentes. Mais vu qu'on tape sur quasiment les mêmes messages et que ça fonctionne et qu'il n'y a pas non plus vocation à arrêter Facebook, je coche la petite case publiée aussi sur Facebook et c'est OK, c'est pas si grave.
Non, mais en vrai, en fait, le discours que tu sortais à tes clients avant, aujourd'hui, tu pourrais dire ne faites pas la même chose entre les réels et TikTok. En fait,
ça a juste
changé de réseau, en fait.
Ça a pivoté. Exactement. Ouais. Bon, ça va. Du coup, je me sens moins coupable.
Non, mais ouais, mais je pense qu'en vrai, ça correspond. Oui, mais je vois ce que tu veux dire, que moi aussi, ce que je disais avant, parce qu'avant, vraiment, Facebook, ça peut marcher sur certaines communautés très puissantes.
Tu vois, les groupes, tout ça.
Ouais, les groupes, ouais.
C'est
t'as un groupe, toi? Vous avez fait un groupe ou non?
On a fait un groupe qui s'appelle Les Joyeuses et qui est un petit peu notre bac à sable quand on veut, qui est un groupe privé, qui est notre bac à sable quand on veut sonder sur des inno-produits ou sur des attentes, des choses comme ça.
Ok.
Ouais.
Donc là, il y a une animation particulière aussi ou pas?
Ça reste assez anecdotique parce que on a quand même tout un petit vivier de clientes qu'on sollicite aussi par mail. C'est un truc que j'ai amorcé quand je suis arrivée, mais par aussi efficacité, etc. Si demain j'ai un test un peu grandeur nature à faire, j'irai vers ça, je pense aussi, parce que l'aspect privé est assez intéressant quand tu es sur de la R&D. Mais en vrai, c'est pas, ça me prend pour un ton monstre et je le modère pas comme un énorme groupe. Je travaillais pour Silence ça pousse du groupe Terena, qui est une marque de plantes liés à l'émission, en fait. C'est,
ouais, d'accord, ok.
Voilà, comme un peu Disney avec d'autres produits et tout. Et en fait, mais sur Facebook, les groupes de jardinage, c'était dingos. Beaucoup plus, ouais, que la page.
C'est limite. Énorme.
C'était au niveau création de contenu, les gens se lâchaient beaucoup plus sur un groupe, quoi.
Oui, parce qu'ils ont vraiment une expérience, un vécu à partager.
Complètement. Très, très
leur
communautaire.
Leur jardinage, ouais, qui est hyper important. Ouais, ouais, où il y a certains groupes qui explosent tout et qui sont, c'est genre, par exemple, les nuisances sonores en ville, par exemple. Enfin, je dis n'importe quoi, mais
ouais,
en vrai, l'environnement, ouais, ça, ou la randonnée.
Ouais.
La randonnée,
des hobbies et des combats, quoi. Ouais, ouais, bien sûr.
Ouais, des hobbies et des combats, exactement. Sur les groupes Facebook, ça dépote à fond. C'est vraiment hyper puissant comme réseau. En fait, Facebook, c'est toujours intéressant, en vrai, quoi.
Mais oui, il y a quand même des potentiels. Et puis, au niveau pub, je suis désolée, enfin, notre génération, bah, du coup, moins celle de la Gen Z qui va plus sur Facebook, à part pour Messenger, et encore, ils ont WhatsApp.
Oui.
Donc, mais voilà, pour le segment âge, 25-34, il y a quand même encore du potentiel, quoi, mine de rien. Donc,
oui, c'est clair. Et puis, ok. Non, mais en tout cas, c'est intéressant de parler de tout ça. Du coup, en fait, ouais, pour toi, les réseaux qui poussent là en ce moment, bah, même s'il y a les autres qui sont là, hein, c'est vraiment Instagram et TikTok,
ouais,
vous soignez vraiment votre présence.
Exactement, c'est ça, ouais. J'aurais à cœur, là, dans les mois qui vont arriver, de plus soigner YouTube, parce que, à titre perso et aussi en veille pro, j'y passe beaucoup de temps.
Ah, YouTube, c'est énorme. Ouais.
Et il y a un potentiel de malade. Enfin, on pourrait faire des vlogs, des weekly vlogs. Enfin,
ouais.
Et ça, je suis sûre qu'il y aurait vraiment une communauté qui créerait de manière assez rapide et qui serait très liée aussi à notre brand voice, quoi. Voilà, on vous montre une semaine chez Joe, comment ça se passe, qu'est-ce que c'est que quand il y a des charges pour un produit. Enfin, voilà, ce serait vraiment très immersif et intéressant, je pense. Donc, mais mine de rien, c'est du temps de prod et du coup, il faudra couper sur d'autres projets. Donc, voilà, là, on est des petits prix au lancement de produits, lancement de gamme. Donc, ça, dans un second chantier, je pense, en 2022, on va y aller à fond, quoi. Ouais.
Donc, tu vois, c'est intéressant tout ce qu'on dit depuis le début. Parce que bon, tu vas développer YouTube. Alors YouTube, c'est pas vraiment un réseau social à proprement parler, mais c'est quand même hyper utilisé en France, en tout cas dans les stats. Hein. Je crois que c'est le premier réseau utilisé, quoi. Enfin, c'est pas un réseau, mais c'est le premier.
C'est nouveau Google,
en plateforme.
Fait. Ouais, c'est nouveau Google.
Oui, c'est ça. C'est la recommandation de vidéos. Exactement. Ouais. Donc ça sert à plein de choses, YouTube, qui sont hyper intéressantes en social media, mais aussi pour le SEO. Hein. Bon, voilà. En tout cas, d'accord. Donc, l'idée, ça serait de faire des vlogs un peu. Ouais, mais c'est parce que c'est la tendance, en vrai. Enfin, c'est ça
et
qui marche sur YouTube.
T'as envie de découvrir des choses, d'être encore plus dans un journal extime. Je me la pète parce que j'ai appris ce mot-là il n'y a pas longtemps. Mais c'est, c'est vraiment ça. T'as envie de.
Un journal quoi ?
Extime. Inverse, c'est intime, tu vois, un journal intime où personne le voit. Là, c'est, tu vois, voilà, c'est
ça. Journal de bord, quoi.
Exactement. Bon, voilà, ça fait mieux.
Ouais, le vlog. Oui, voilà.
Exactement.
Non, mais c'est vrai que.
Ouais, c'est exactement ce format de montrer ce qui se passe et d'être complètement en immersion dans une marque ou avec une personnalité.
Ouais, mais parce que ça, c'est une vraie tendance de société aussi,
ouais,
de montrer de tout montrer. Le côté voyeurisme est vraiment exacerbé.
Exactement.
Les communautés veulent tout savoir, tu vois. Non, ça, c'est vraiment. Voilà, il faut. C'est un truc sur lequel vous pouvez surfer. Vous surfez vraiment.
Sans se dénaturer, tu vois. On va pas, y en a qui le font dans d'autres marques avec une ultra représentation du CEO ou du dirigeant machin. Les filles, elles vont pas être dans une envie de se surmontrer s'il y a pas quelque chose à dire. Tu vois, ça va pas être. On utilise Colline et Dorothée. Attends, parce qu'elles sont pas là. Donc, comment on fait? On a un truc à dire. Mais non, en fait, soit, comme on disait, c'est des experts dans le métier qui le font. Soit, bah, le produit parle de lui-même et on va pas mettre une égérie à tout bout de champ parce que celle qui est bankable. Et enfin, voilà. Faut aussi mettre les choses dans leur contexte. Et je pense qu'aussi, ça, c'est à titre perso. Et voilà.
Ouais.
Si tu suruses de ton image personnelle, tu finis par lasser. Il y a un sentiment d'agacement qui va se générer, notamment, on le voit hein, sur LinkedIn, il y a beaucoup plus de photos selfies, des gens, tu vois, machin, qui rencontrent un tel, qui sont hyper saucés, et voilà, ils font leur petite photo. En fait, tu finis par déprécier, ne plus t'abonner et bah t'as l'effet inverse qui se passe, tu vois. Donc il faut pas venir saturer de présence et d'incarnation, quoi. Enfin, vraiment.
Ouais, il y a un équilibre à avoir. C'est vrai, sur LinkedIn en ce moment, il y a un énorme engouement sur le personal branding.
Ouais.
La photo de tout le monde à tout bout de champ.
De partout.
Et ouais, voilà. Et c'est vrai que c'est un peu usant parce qu'en fait, ça fait très ego trip tout ça.
Ouais. Exactement.
C'est vrai.
Ouais.
Et là, dans le cadre de, en plus d'une marque, peut-être ça peut marcher pour des créateurs de contenu où les gens ils veulent savoir qui est la personne qui crée le contenu un peu plus. Voilà.
Oui, parce que c'est leur fond de commerce en fait, c'est ça, c'est leur personnalité qui a fait que. Mais dans une marque, bah, ça reste le produit. Enfin, tu vois, c'est le. Mais c'est très mince. Et t'as des gens qui sont fascinés d'acheter un espèce d'idéal de conso, tu vois. Ah, bah, telle ou telle nana ou mec, c'est lui qui a fait ça. Ah ouais, puis à côté, je vois qu'il est hyper engagé dans telle ou telle cause ou tel sport, machin. Mmh. Bon, bah, il me donne envie, il me booste au quotidien. Mais jusqu'au moment où tu te dis, mais en fait, non, c'est trop, il vit trop des. T'as toujours cette frontière entre l'inspiration, le fait d'avoir envie de se dépasser parce que tu vois des choses qui te motivent, et le fait après de te débooster au niveau de ton ego parce que toi, t'es derrière ton écran, t'es pas en vacances, t'as pas lancé tel ou tel produit révolutionnaire. Et enfin, voilà, donc il faut. C'est vraiment les réseaux sociaux, tu sais très bien comme moi, c'est que ça vient vraiment enrichir et appauvrir l'ego forcément de quelqu'un. Donc il faut faire vraiment très attention à ça pour pas venir saturer et lasser en fait tout bêtement quoi. Enfin voilà.
Ben, c'est pour ça que on voit aussi que tu fais appel à des ambassadeurs qui représentent la marque, comme Joanne Defay qui est Surface Pro.
Oui. Surface professionnelle, et c'est très intéressant en effet de l'avoir et de. Bah, peut-être que tu avais une question, moi je suis en train de parler là. Mais...
Non, mais vas-y, mais c'est. Non, en fait, je n'ai pas vraiment de question, mais tu vois, elle transmet les valeurs du sport, du dépassement de soi, mais à travers son image de surfeuse. Et là, on sort du coup du côté incarnation de l'entreprise par le dirigeant, enfin par les fondatrices.
Ouais.
Là, ça se reporte sur une personne qui est vraiment au sommet dans son sport, quoi.
Exactement. Et puis qui excelle, qui a aussi un mood qui est similaire au nôtre, tu vois. Elle a la cool, elle défend des belles choses, elle a envie de après son parcours professionnel de faire des choses aussi au niveau local en France et tout. Donc il y a une vraie synergie qui s'est faite entre Jo et Jo. Ça, c'était pour la petite histoire, ça nous a bien fait rire aussi, donc ça, c'était cool. Et puis juste, c'est une vraie utilisatrice de nos produits, tu vois, les tampons, elle en met tout le temps parce qu'elle est dans le milieu aquatique.
Oui.
Elle est obligée, tu vois, donc se dire, je sais, voilà ce que j'utilise au moment de mes règles, que c'est bien pensé, qu'en plus, ça respecte les corps et la planète. Enfin, il y a tout ça, tu vois, donc on était bien en symbiose sur tout ça et c'est hyper chouette quoi.
Ouais, bah c'est clair. Si c'est une manière d'éviter la surreprésentation des membres de l'équipe, hein, un truc qui va inonder bientôt LinkedIn, tu vois, c'est en train. Bah c'est vrai que c'est intéressant, tu vois, pour les marques. Il faut c'est sûr, faire appel à des influenceurs aussi, influenceuses.
Bien sûr. Ouais.
Vous le faites.
Ouais.
Ok.
Avec les services partenariats, ouais.
D'accord, oui. Donc là, c'est vous chercher. Toi, tu travailles aussi là-dessus, sur cette question-là.
Sur le partenariat, je suis consultée. Après, on a Bleu-N et Marine qui font ça à la perfection, à identifier des profils sur du nano. Je t'avoue qu'on se dirige de plus en plus vers du nano.
Sur tu nos peux OP. Expliquer ce que c'est, nano?
Alors, nano, ça va être des personnes entre 1000 et 10 000 abonnés. Après, c'est micro 10 000 jusqu'à, je crois, 40, 50 000. Voilà, middle, et puis après macro, et puis après VIP, c'est ça. Master.
C'est plus d'un million.
Voilà. Donc, et en fait, même si c'est des gens qu'on passe fameux swipe up, c'est pas grave, parce qu'en fait, ils ont des communautés qui sont hyper réactives. Vu qu'ils sont dans ce petit effectif, ils vont avoir des taux d'engagement et de visibilité sur les stories qui vont être beaucoup plus gros aussi que des gens qui ont fait telle ou telle marque juste avant la nôtre. Enfin, tu vois, il y a aussi des conflits d'intérêts parce que quand tu as réservé une exclu sur un mois, toi, tu arrives le mois suivant et tu fais la même chose au niveau des culottes menstruelles. C'est gênant, en fait. Il y a ça aussi, tu vois.
Ouais, c'est sûr. La communauté, ça peut peut-être l'aller
Oui, un peu. C'est ça. Ouais. Et puis, te dire, on est que sur du placement produit tout le temps. Et puis, c'est pas jour, en fait. Tu vois, on est très, très souvent démarchés puisque je fais la modération sur Instagram. On est très souvent démarchés par des agences et elles ont raison, en fait. Notre marque est cool. Donc, il y a ce programme avec une égérie. Pourquoi pas leur proposer et je ferais la même chose. Mais en fait, juste, on préfère faire homemade et bien qualifier tout ce qu'on a envie de mettre en place avec quelqu'un, quoi.
Du coup, homemade, ça veut dire que tu fais pas appel à une agence, mais tu utilises un logiciel pour chercher des influenceurs ou tu
les
tu
micros,
le fais à la mano,
les micros, je veux te dire, c'est du travail de fourmi.
Oui.
C'est fait par Bleuhen et parce qu'elle a une grosse connaissance de toute cette culture-là et tout, elle le fait super bien, mais on passe pas par des logiciels.
D'accord.
Parce qu'on a on a envie de trouver des pépites, en fait. On n'a pas envie d'avoir des.
Oui, parce que quand un logiciel, c'est un catalogue et forcément, il y a plein d'autres marques qui.
Exactement, d'accord. C'est ça.
Donc, c'est un job à plein temps, quoi. Là, c'est la recherche de hashtags, de tendances en permanence.
À fond. De profil d'accord. montant et tout, ouais.
Donc, en fait, le coût d'un. Le coût d'une prestation d'un influenceur type nano. Enfin, c'est pas un influenceur nano, c'est un compte nano, on va dire.
Ouais.
Entre 1000 et 10 000 abonnés. Influenceur, ça veut dire que sa communauté est très engagée et prête à faire ce que l'influenceur fait ou pour, comme tu disais juste avant, s'inspirer de ses valeurs, tout ça. Mais du coup, le coût, il est peut-être un peu moins important, c'est ça. Enfin, je sais pas. Est-ce que comment ça se fait? Comment ça vous faites ça? Est-ce que vous avez un budget à l'année pour influenceur ou?
Bien sûr, il y a des enveloppes dédiées et après à nous de se dire on va faire telle campagne en faisant du nano ou du micro. On va avoir du gifting, donc c'est en fait offrir des produits, leur dire qu'est-ce que vous voulez sur notre gamme réutilisable ou à usage unique. On leur envoie. On tente au maximum que possible d'avoir justement un partenariat rémunéré, etc. Parce que à partir du moment où tu offres des produits, c'est rémunéré. Enfin, tu vois, il y a une dotation. Donc, et ça, c'est un peu ma bataille, c'est que souvent, des fois, c'est pas forcément noté. Ça, c'est un peu dérangeant parce que on se rappelle du petit scandale avec Nabila là sur Snapchat, mais.
Attends, réexplique le contexte.
Nabila s'est tapé, 20 000 euros d'amende, je pense que c'est pas grand chose, je pense que c'est l'équivalent d'une story pour elle, parce qu'en fait, elle a trompé sa communauté à faire la promotion d'un produit sans spécifier que c'était un partenariat rémunéré. Après, il y a des codes de présentation, de façon de filmer, mais tant que c'est pas noté de manière explicite, c'est juste la réglementation française, quoi. Il faut le spécifier. Donc, c'était monté assez haut parce que c'est une personnalité publique et tout, mais il y en a plein qui ne pensent pas à le faire ou qui, se disent, de toute manière, on se doute bien que, c'est implicite. Il faut vraiment le marquer, quoi. C'est hyper important.
Toi, c'est question des influenceurs. C'est une énorme, c'est un gros pavé, c'est un gros truc, chez les CM, c'est un gros truc dont on s'occupe ou pas, mais c'est important d'avoir ce levier-là aussi en tête, avec la publicité et avec la création organique. Du coup, alors toi, comment le contenu, tu vois, comment tu t'y prends en termes d'organisation pour le créer dans le mois, comment ça marche ta journée, tu vois, de community manager?
Alors, une journée type, on va commencer par le plus intéressant au niveau input, mais pas forcément toujours le plus agréable parce que des fois, tu peux avoir des petites surprises. Après, à 90%, j'ose le dire, 90%, j'ai des commentaires et des remontées positives. J'ai vraiment trop de chance. Cool. C'est une communauté de ma boule. T'as toujours 10% de la commande qui a du retard, des choses comme ça. Tu vois, gérer. Et puis, c'est bien normal, il en faut. Enfin, sinon, on est parfait, ça n'existe pas. Mais... Oui. Donc, je fais ma modération. Qui prend plus ou moins de temps, ça dépend des périodes, c'est vraiment pas d'un jour sur l'autre, ça dépend vraiment.
C'est le matin, quoi.
Ouais, le matin, un peu tout le temps, tu vois, parce que je flingue ma journée sur mon portable, en fait, je suis tout le temps natif aussi sur Insta, donc on peut faire la modée via le Facebook, mais c'est toujours plus sympa, t'es hyper réactif, machin, il y a un côté beaucoup plus proche, mine de rien, aussi de le faire sur mobile, je trouve. J'ai l'impression d'être vraiment la copine de copine, quoi, en le faisant sur mon portable.
D'accord. Ouais.
Et ensuite, un petit tour un peu avec les équipes, tu vois, on regarde les chiffres de la veille. On a quand même un regard journalier sur les performances, etc. Donc, en fonction,
Quel
on va être...
type de chiffres tu regardes pour... c'est quoi les chiffres importants? Enfin, les 3-4 chiffres les plus importants, tu vois, pour toi, tu vois?
Sur les analyses sur Insta.
Ouais, ils sont tous différents. Alors,
ouais.
Ouais, sur Insta, par exemple.
Ça va être
ouais.
En effet l'addition de tous les engagements, bien sûr, les fameux enregistrements, les commentaires.
C'est-à-dire par post et tout.
Ouais, c'est ça.
Tu utilises un logiciel? Non, c'est Instagram qui te le donne, ça.
Ouais. Moi, je passe pas. Je passe plus par les outils parce que ça arrondit ça. Et c'était pas tout le temps viable. Je l'ai fait dans mes
premières
expériences, mais j'étais souvent un peu déçue à me dire bon, là, ils arrondissent, mais en fait, quand je retourne en natif, c'est pas ça. C'est un peu dérangeant quand même.
Okay.
Donc, tu vois, les actions aussi qui vont être faites par rapport à ma boutique, mine de rien, vu qu'on est sur du e-commerce. C'est très intéressant, tu peux avoir les statistiques de choses qui vont être enregistrées, qui vont être ajoutées à la liste de souhaits et tout, donc tu as une vraie tendance de ce qui intéresse ta communauté, notamment sur Insta, et puis le reach de mes stories, tu vois, enfin je me bats un peu pour ça, j'arrive à me frayer un chemin dans les stories qui sont de plus en plus diverses par rapport à toutes les marques et tout, donc ça c'est hyper important comme chiffre pour moi aussi. Et puis, voilà, la trend globale de la croissance de ma communauté, ça va sans dire, mais vraiment, toutes les actions qui vont être faites, tu vois, le clic sur le profil, abonnés, combien la répartition aussi de personnes qui étaient abonnées ont vu, tu vois, il y a 3% de personnes non abonnées à la page qui ont vu votre message en rapport avec l'Explorer. Ça, c'est des analytics qui sont vraiment très intéressants, quoi.
D'accord. Et ça te permet de te dire, OK, en fait, il y a des personnes qui ne sont pas forcément abonnées, mais qui suivent quand même. Quoi.
Ouais, et qui viennent voir. Alors, tu te dis, voilà, soit c'est une opportunité, soit c'est aussi la concurrence. Hein. On se yeux tous beaucoup. Donc,
c'est moi.
C'est toi, c'est ça.
C'est moi
sur ces derniers jours. Et c'est très bien, tu fais monter mon algo, continue.
J'ai poncé tous les contenus.
C'est chouette, non, ça fait plaisir parce que t'as vraiment bien bossé le truc, c'est cool.
Ouais, parce qu'il faut bien comprendre, c'est sûr. Non, mais voilà, merci. C'est cool. Donc ok, alors tu regardes ensuite les KPI avec l'équipe à
10h30
et à 11h
et puis à 11h on fait une pause goûter, non pas du tout,
voilà.
On aime bien manger chez Joe, par contre c'est une vraie marque de fabrique, mais
je pense qu'on aime bien manger partout,
enfin, bon,
oui. Mais ok, ça c'est intéressant à savoir.
Vers 11h je vais potentiellement réajuster et dire on va réaxer sur tel ou tel truc qui n'était pas forcément prévu. Donc, je vais créer une story sur Canva ou la faire avec l'éditeur natif, peu importe.
D'accord. Donc, tu crées sur Canva les stories, d'accord.
Ouais, complètement. On a Canva Premium et c'est la vie. Enfin, je suis tellement contente d'avoir cet outil où je peux tout réajuster. Enfin, j'ai une DA qui a été faite par Marine, qui est directrice artistique chez nous. Et après, moi, si tu veux, j'ai ma boîte à outils. Et après, je module, je connais la charte, les couleurs. Enfin, vraiment, Canva, pour avoir une grande flexibilité, une réactivité, c'est un truc de fou. C'est vraiment très, très, très bien.
Donc tes posts, en tout cas, en général, et en story, ou tes posts, tu les fais sur Canva.
Oh, ouais, exactement.
D'accord.
Toujours.
Ouais, c'est vrai que c'est pas mal, ça, d'avoir une charte faite par la directrice artistique. Et puis, ouais, tu connais les codes couleurs, tu connais tout. En fait, t'as juste à adapter, quoi, à chaque fois.
Ouais, c'est vraiment le bon compromis pour te dire, j'ai un bon socle de départ. Et après, je peux le faire évoluer et je prends mes petits gimmicks visuels et je les enrichis. Et puis, si je veux rechanger un truc sous une semaine, on en parle et j'ai une deuxième livraison hyper chartée qui arrivera avec Marine. Donc, c'est hyper bien d'avoir ce côté hyper flexible en le faisant soi-même. Parce qu'aussi, je passe beaucoup de temps, donc je connais les usages et les codes de trucs qui vont fonctionner. Tu vois, la grosseur de la typo. C'est tout bête, mais tu peux pas mettre un corps 10 sur un poste, c'est impossible. Donc, il y a plein de trucs comme ça, tu vois, tu as ton petit fléchage où c'est vraiment très lié à l'univers SEM et c'est cool, quoi. de pouvoir
D'accord.
faire les deux.
Donc ça pour faire tous ces visuels, enfin toi t'as l'expérience et tout, mais tu utilises des guides de taille des images, enfin Canva il te donne tout en fait
Ah bah
maintenant.
oui,
Donc,
ah bah tu réfléchis
ouais, en
plus.
fait t'as rien à faire. Et du
Tu
coup ça
réfléchis à ton contenu, ouais. Et
tu
pas
l'envoies
vraiment.
sur un cloud.
Ouais, après
Comment ça?
on se le met sur. On utilise un truc qui est hyper bien que j'utilisais précédemment chez Vupa, c'est Asana. Et en fait, avant, je faisais mon calendrier sous un Google Slide, j'ai récupéré le compte, c'était comme ça. Et là, on a tout basculé sur Asana et c'est ultra collaboratif, tu vois. Là,
C'est
je vais
comme
être off
Trello,
15
non?
jours. Ouais,
C'est
c'est exactement la
ça.
même chose à peu
Ouais,
près.
d'accord, ok.
Ça pousse bien les projets et tout. Et là, tu as une fonction calendrier. Donc, t'es plus là à faire tes cases, mano, machin et tout. Tu as ton calendrier, tu veux switcher un truc, tu veux qu'il y ait une interdépendance avec un autre dossier en cours, bah tu crées des interdépendances. Et franchement, si j'ai un outil à conseiller pour la gestion CM, qui est sous-coté, je pense, c'est Asana. Vraiment, Trello, certes, tu vois, tu
D'accord.
avais tout ça,
Bah,
Basecamp, machin, c'était bien, mais.
Trello, c'est compliqué. Moi, j'utilise Notion maintenant
Ouais.
pour le calendrier. Je trouve qu'il est hyper clair, c'est hyper bien. En plus, en collaboratif avec les clients, c'est vachement bien. Mais je crois que je peux faire un lien entre Canva et. C'est sûr, je peux faire un lien entre Canva et
Moi,
Notion. Il y a plein
je crois qu'aussi je peux avec
d'intégration.
Asana, avec Google Drive, c'est sûr, mais
Oui, bah ça,
c'est
du
hyper
coup,
bien.
c'est vrai que tu fais en fait, tu fais ton visuel sur Canva,
Ouais.
tu fais OK, ça va directement dans Asana, quoi.
C'est ça. Ouais, non, mais
Ah,
ouais,
c'est génial,
c'est trop bien.
automatisé, ouais. Et puis ensuite, tu regardes ton calendrier enfin, donc, les visuels, tu le fais le matin, plutôt, et tu les
Ouais.
fais à la suite, quoi. Comment tu fais pour imaginer les posts et publicités? Enfin, t'as toutes tes thématiques par jour.
Ouais.
Du coup, en fait, tu fais des espèces de colonnes où tu mets plein de posts pour le mois prochain, le suivant ou.
Je travaille vraiment la semaine. Et là, ça va faire bondir mes anciens collègues. Avant, je travaillais le 15 pour le mois suivant. Et là, parce qu'en fait, tu as aussi une réalité des chiffres et des préoccupations de produits à booster parce que voilà, tu as des ventes qui vont être plus faibles ou des choses à muscler. Et puis bah aussi on est très lié aussi à nos fabricants, tu vois. Enfin, on va avoir un retard de fabricant ou justement l'inverse, quelque chose qui va être en réassort plus tôt. Qu'est-ce que tu veux que je le prépare trop en amont, j'en sais rien. Donc, faut avoir une grande flexibilité aussi à la semaine et des fois au jour J à se dire bah ça go, ça devait être demain, bah, tu le fais aujourd'hui. Ce qui fait que j'ai pas une avance de malade. Là j'en ai une sur août parce que moins de personnes dispo au boulot et du coup tu peux prendre de l'avance sur septembre pour préparer tes vacances, mais et puis j'ai fait des petits contenus froids et tout, donc ça c'est OK, mais je suis vraiment quasiment à 3-4 jours près.
Ce que tu veux dire, c'est que tu as des contenus froids qui sont toute
Bah tu
l'année
vois les
stylés
mêmes,
targeting,
oui voilà
quoi.
c'est ça, ouais.
Ouais.
Les
Et
moments
derrière,
gênants
genre pour la semaine, t'as combien de contenus froids et combien de contenus chauds, quoi? C'est 50-50 ou
Non,
moins?
non, non, j'ai on va dire un tiers de contenu froid. Avec le feel good, mes moments gênants et puis les contenus équipes que je pourrais un peu plus anticiper quand tout le monde est là. Et après, c'est deux tiers de produits, d'arrivées produits et tout, qui sont liés à des shootings, enfin, tu vois, de la captation en amont et tout, qui prend plus de temps et qui est des fois vraiment fait une semaine avant, quoi.
Ok, donc ça veut dire que. Et là, alors le matin, tu as fait tes visuels, tu vas manger à midi parce que tu aimes bien manger avec
Voilà,
l'équipe et
c'est
tout, c'est
ça.
génial. C'est le super temps convivial de partage et tout
Ouais.
ça. Et ensuite, l'après-midi, tu fais quoi? Tu.
Ah bah je refais un peu de modé parce que c'est important quand même
D'accord.
de pas les
Deux
laisser
fois,
tôt.
ouais, d'accord.
Ouais, et
Donc
puis
quand
même
même
le
deux
soir,
fois,
tu vois.
ouais.
Enfin, je le fais minimum trois
En
fois par
partie.
jour quand même.
D'accord, ok.
Ouais. Modé et puis après je continue. Je vais avoir, je sais pas, des réunions sur le choix d'influenceurs, une campagne qui va arriver. Tu vois, on va faire des brainstorming.
D'accord.
Réunion avec Sylvain sur les messages publicitaires, un shooting qui peut débarquer, tu vois, en se disant là on a deux trois produits, on aimerait plus les mettre en valeur, bah j'organise toute la partie shooting avec une presta photographe avec qui on bosse depuis longtemps,
D'accord.
choix des modèles, tu vois, donc ça c'est un autre volet aussi qui est pas pur CM mais qui prend pas mal de temps, tu vois, trouver du matos, des accessoires.
D'accord, ouais, donc tu t'occupes aussi de cette partie-là,
Ouais.
plus comme, qui est quand même assez énorme aussi. Et tu utilises du coup les shootings photo, toi, pour ton CM, c'est
Exactement, pour
ça? Ouais.
alimenter, ouais. Donc j'ai vraiment, c'est hyper cool parce que j'ai vraiment l'œil de ce que je vais pouvoir avoir envie de pousser demain, tu vois, voilà, sur un reel ou moi vu que je suis sur le shooting, je peux les faire pour les behind the scenes et aussi me dire bah là cette photo-là, elle va être lifestyle, on présente un peu le produit comme ça. J'ai les deux quoi, j'ai le combo d'un univers et un mood qui va bien avec le produit.
Et comment tu fais pour te tenir au courant de l'évolution des usages des différentes communautés, tu vois?
Tu y passes beaucoup trop de temps. Il n'y a pas de secret.
Troll. Voilà.
C'est vrai.
Tu scrolles.
Je passe ma life à scroller et à découvrir d'autres univers qui sont pas liés à ce que moi j'apprécie professionnellement et personnellement. Tu vois, avant, j'étais abonnée, là, je suis beaucoup aussi la concurrence forcément et la concurrence aussi internationale et des secteurs d'activité liés, tu vois, cosmétiques, vêtements étiquetés, etc. Mais quand j'étais en agence, je suivais Lidl et Carrefour. C'est pas mes marques préférées en tant que Clément Solas, mais ils font des trucs D'accord. assez innovants, ils ouais. ont un staff de maboule derrière. Monoprix, ça sert à rien de le dire, tout le monde le suit, mais tu vois, ouais. voilà, c'est des gros comptes. La Micheline, mine de rien aussi, tu vois, alors que je ne suis pas forcément ouais. conso, mais je passe du temps okay. à suivre des comptes qui vont enrichir ma démarche créative, pas forcément parce que moi, je suis fan, quoi.
D'accord, mais c'est vrai, Candice Nicolas de chez Lidl, elle est passée dans le podcast d'ailleurs. On avait fait un épisode ensemble.
Mais ils sont forts. Hein. Ok. Ils sont forts.
Ouais. Mmh. Bah ici, oui, bah ouais, parce que bah ils ont un positionnement bien particulier aussi.
Ouais, carrément.
Ok. Oh et toi, tes comptes, ouais.
Je vois juste l'heure qui passe. J'ai un déj pro juste après.
À quelle heure?
Bah 30, il faut que je parte de chez moi, quoi.
Ah d'accord, mais écoute, on va arrêter là, mais écoute, c'est
après,
super déjà.
On peut reprendre un petit boost après, si tu veux.
Non,
mais
non, c'est bon, on a parlé de beaucoup de choses, mais juste, ouais. est-ce que pour conclure, les compétences pour un CM aujourd'hui, c'est quoi pour toi?
Alors, les compétences pour un CM...
Qu'il faut avoir, quoi.
Qu'il faut avoir, c'est plutôt des soft skills, tu vois, parce que tu peux toujours apprendre à programmer, à être un technicien du reporting ou de l'algorithme et tout. Mais il y a une vraie soft skill qu'il faut avoir, c'est l'appétence à être curieux de tout et n'importe quoi. Enfin, du online, du offline, d'autres univers qui sont pas liés à ce qui nous touche en tant que personne et à suivre des comptes, enfin être ultra curieux. Enfin, c'est un peu bateau, mais c'est vraiment pour moi le secret d'un bon CM qui va faire une bonne ligne édito bien câblée et intéressante, quoi.
Super. Ouais, bah écoute, merci beaucoup en tout cas à toi
ouais.
pour toutes ces infos.
Merci à toi
tout
de m'avoir invité, donné, je suis trop contente, c'était ouais. très cool.
Voilà, l'épisode est déjà terminé. J'étais hyper content parce qu'on a bien discuté avec Clémence là pendant plus d'une heure et demie. Et j'ai appris vraiment énormément de choses et j'espère que vous aussi. Avant de terminer, avant de se quitter, n'oubliez pas, vous trouverez dans le lien en description ma formation pour devenir community manager et en vivre pleinement. Donc je vous invite à cliquer sur le lien pour découvrir à quoi ça va ressembler et qu'est-ce que vous apprendrez dans cette formation. Et en plus, à la fin, vous pourrez me contacter donc pour en savoir plus sur ce projet et savoir si moi je peux vous aider à devenir community manager. Et ben, je vous souhaite une très très bonne fin de journée ou j'en sais rien, de soirée, je sais pas où vous en êtes. Et puis je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Salut!